18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bonsoir à tous, bienvenue, ravie de vous retrouver. Très belle année sur Europe 1, on y retourne encore ce soir. C'est parti pour 2 heures d'infos, d'analyse, de débat. C'est votre grand journal du soir. Dans un instant, c'est toute l'info avec vous, Isabelle Mier. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Bienvenue à la une de l'actualité ce soir, cette réunion de négociation au ministère du Travail avec un ultimatum lancé par la CFDT. 18h20. 5 ans après l'attentat de Charlie Hebdo, une journée de commémoration et d'émotion, je recevrai la veuve du dessinateur Tinius, abattue ce 7 janvier 2015. Elle publie un livre fort où elle raconte comment elle a recollé les morceaux d'une vie fracassée. Elle sera dans ce studio. 19h10, l'invité politique ce soir, le patron des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau. Et puis une tendance en ce début 2020, le frugalisme. Attention à moins consommer pour mieux consommer. Prendre de la distance, vraie tendance et bonne résolution de début d'année ou injonction. Tiens, comment le vit-on? On en parle ensemble à 19h30 avec nos invités. En tout cas, vous avez le programme. C'est l'info qu'il vous vaut. C'est votre grand journal du soir. C'est jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Dans l'état de tension dans lequel est notre pays, ce serait de bon ton d'avoir une annonce que l'âge pivot est retiré du projet de loi.
Il faut retirer l'âge pivot. C'est l'ultimatum lancé aujourd'hui par la CFDT à l'issue de la réunion des partenaires sociaux ce matin en présence d'Édouard Philippe. La main tendue du Premier ministre sur la conférence de financement n'est pas de nature à faire arrêter la grève.
Les raffineries bloquées depuis ce matin et pour 4 jours, mais l'impact pour l'instant est limité, pas de pénurie.
5 ans déjà, Charlie Hebdo, Montrouge, l'hypercachère, cérémonie aujourd'hui en hommage aux 17 victimes de ces attaques.
Faut pas oublier, faut pas que la jeunesse, parce qu'il faut rappeler que pour ma génération, c'est un des premiers coups de poing dans la gueule qu'on s'est pris.
Asphyxie avec fracture du larynx, c'est le résultat de l'autopsie pratiquée sur le corps de Cédric, ce livreur décédé après un contrôle policier. Son père dénonce une bavure policière.
La vérité aujourd'hui, c'est quand on voit les images, on a assassiné mon fils. Je vous le dis, c'est un meurtre.
Des peines de prison ferme prononcées pour 21 des 31 prévenus jugés pour le saccage d'un péage. C'était à Narbonne, en marge d'une manifestation de gilets jaunes il y a maintenant un an.
Et puis on verra que l'incendie de Notre-Dame de Paris, les manifestations des gilets jaunes, la grève dans les transports et la canicule ont eu un impact en 2019 sur la fréquentation de nos monuments nationaux. La Bourse de Paris a fini à l'équilibre, moins 0,02% à 6012 points.
Nos monuments nationaux et nos théâtres aussi, hein, on en parlera hein, dans cette tranche. La météo, c'est avec vous Anissa.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Demain, une journée où le ciel sera gris et nuageux au nord, beaucoup plus lumineux et ensoleillé au bord de la Méditerranée. Attention au brouillard encore demain, tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Isabelle Millet.
Et on se disait que peut-être la trêve des fêtes de fin d'année aurait un peu apaisé les esprits. Eh bien non. Pour leur retrouvaille, gouvernement et partenaires sociaux ont encore échoué à trouver un terrain d'entente.
Et donc réunion ce matin en présence du Premier ministre, avec une main tendue d'un côté, une fin de non-recevoir de l'autre.
La main tendue, c'est celle d'Édouard Philippe, hein, qui reprend une idée de Laurent Berger et qui propose de recevoir vendredi les partenaires sociaux pour évoquer la conférence de financement voulue par le leader de la CFDT. Bien, répond l'intéressé, mais insuffisant.
Cette ouverture, il faut qu'elle aille plus loin en rejetant maintenant la question de l'âge pivot. Et donc la CFDT va continuer son action. C'est une pétition qui est partie très très fort aujourd'hui. Une interpellation des parlementaires et les militants de la CFDT le 11 seront mobilisés pour qu'on aille sur ce retrait de l'âge pivot. Je le répète, dans l'état de tension dans lequel est notre pays, ce serait de bon ton d'avoir une annonce que l'âge pivot est retiré du projet de loi actuel. Sinon, la CFDT ne s'inscrira pas durablement dans cette discussion. C'est toute l'action que nous allons mener avec nos militants dans les jours et les semaines à venir.
Bonsoir François Geffrier.
Bonsoir.
Alors on vient d'entendre Laurent Berger à l'issue de cette réunion. Clairement François, c'est pas gagné.
Oui, alors je suis désolé, je vais commencer par un moment de pure vanité, mais hier soir je vous disais que comme pour toute négociation, on allait voir aujourd'hui que gourmandise et inflexibilité. Bingo, Laurent Berger a beau avoir gagné une manche. Je rappelle qu'il ne voulait pas entendre de l'âge parler de l'âge pivot, l'incitation à partir à 64 ans. Alors pour que le système des retraites soit quand même équilibré financièrement, il proposait qu'on s'y prenne autrement en réunissant une conférence de financement. Cette manche, il l'a donc gagnée, mais il veut aller au bout de sa logique. Pas d'âge pivot, on vient de l'entendre, il le martèle. En face, vous avez les organisations patronales, dont le MEDEF, qui disent « Mais forcément, on devra toucher d'une manière ou d'une autre à l'âge de départ, car nous, les patrons, nous refusons de payer plus cher les cotisations, vous savez, sur les salaires. » Et puis, il y a aussi la CGT qui veut précisément obtenir cette hausse des cotisations. Sa secrétaire confédérale, Catherine Perret, n'était donc pas du tout contente tout à l'heure.
Le gouvernement a un sérieux caillou dans sa chaussure, puisque les grèves ne sont pas prêtes de s'arrêter. Les salariés, à partir de jeudi, mais aussi samedi, seront très fortement mobilisés pour réclamer le retrait de la réforme à points, qui est une réforme mortifère pour tous les salariés.
Alors vous avez peut-être remarqué, si vous suivez de près ce dossier qui parfois est un tout petit peu compliqué, je n'ai pas parlé ni de pénibilité ni de l'emploi des seniors, qui était pourtant au programme également aujourd'hui. Il faut dire que la négociation là-dessus n'a pas vraiment commencé. Tout juste, le gouvernement a-t-il distribué des calendriers de réunion et des jolis graphiques pour que tout le monde ait en tête les mêmes chiffres, le même constat de départ. Mais Édouard Philippe l'a dit lui-même à la sortie, je sors de la première d'une longue série de réunions.
Ouais, enfin, ils disent quand même rendez-vous dans 3 jours. Vendredi, normalement, on verra Laurent Escure et Laurent Berger en attendent beaucoup. En tout cas, ils espèrent une réponse définitive. Merci François Geffrier. On en reparle à 18h30 avec nos grandes voix. Et puis à 19h10, le patron des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau, sera l'invité d'Europe 1.
Alors, cette réforme des retraites, elle n'est pas attendue au Parlement avant mi-février. Mais le Sénat a pris le devant en organisant un débat sur ce sujet. Ce soir, en présence du monsieur retraite du gouvernement, avec en ligne de mire pour sa majorité de droite, la question de l'âge de départ.
Une réforme qui était aussi à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, au cœur des questions au gouvernement, il y a eu quelques échanges tendus d'ailleurs. On en écoutera des extraits dans votre journal de 19h, Isabelle.
Et alors qu'on s'écharpe à l'Assemblée, sur le terrain, les opposants ne relâchent pas la pression. Manifestation aujourd'hui à Montpellier, à Dieppe, à Clermont-Ferrand, à Paris. Toujours des perturbations dans les transports et des blocages de raffineries qui, pour l'instant, n'ont pas de conséquences à la pompe. En tout cas, c'est ce que confirme ce soir le président des propriétaires exploitants des stations-service, Francis Pousse.
Vous avez 8 raffineries en France. Je précise qu'il y en a 2 qui ne posent pas de problème aujourd'hui sur les 8. Et il vous reste à côté de ça 192 dépôts qui, eux, à part 3, ne sont pas handicapés par des mouvements de grève. Donc, en termes de réserve, l'ensemble des dépôts français constituent une réserve de plusieurs jours, voire semaines de consommation. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Et les stations-services ont un stockage qui est souvent assez élevé. Donc, s'il n'y a pas d'effet de panique, il n'y a pas de raison qu'on passe avec difficulté ces 3 jours à venir. À midi, on n'avait pas plus de 2% de stations-services en difficulté. Quand on parle de difficulté, on parle soit de pénurie totale, soit de pénurie partielle. Donc, c'est insignifiant par rapport à d'autres moments où les problèmes étaient plus importants.
Le président des propriétaires exploitants de stations-services joint pour Europe 1 par Maud Descamps. Et on verra bien sûr comment la situation évolue dans les prochains jours, puisque les 8 raffineries françaises devraient rester bloquées jusqu'à vendredi.
Et on le répète aux automobilistes, évitez le principe de précaution. On n'allait pas remplir vos réservoirs à tout prix.
Surtout
parce
pas.
Parce qu'il en reste de l'essence. Et puis il y a aussi cette action coup de poing ce matin au siège de BlackRock, ce fonds de pension américain, Isabelle, que certains soupçonnent d'avoir inspiré la réforme des retraites. Le hall d'accueil de l'immeuble a été brièvement envahi, notamment par des cheminots en grève. BlackRock, dont le patron a récemment été décoré de la Légion d'honneur.
Il est 18h06 sur Europe 1, par la suite du journal Nathalie Lévy, Isabelle Millet.
Et l'autre grand titre ce soir, c'est bien sûr ce triste anniversaire.
Le souvenir toujours présent de ce 7 janvier 2015. On va en parler avec mon invité Charlie Hebdo, mais aussi quelques jours plus tard, Montrouge, et puis l'hypercachère.
Le périple meurtrier des frères Kouachi et d'Amédi Coulibaly, 17 victimes en tout. Justin Morin a assisté ce matin aux cérémonies d'hommage toujours aussi bouleversantes.
Frédéric Boisseau, Franck Brinsolaro, Cabu.
Les mêmes noms égrenés chaque année. Devant l'ancienne rédaction de Charlie Hebdo, une ligne de personnalités officielles et derrière une cinquantaine de personnes, les proches, les familles des victimes, les amis de Charlie. Sur le mur, les visages des 12 victimes de l'attentat sont dessinés, sourire aux lèvres. Même cérémonial, quelques dizaines de mètres plus loin, là où Ahmed Merabé, gardien de la paix, a été assassiné, Hugo, 21 ans, est venu s'y recueillir avec une affiche « Nous sommes tous Charlie ».
Faut pas oublier, parce que faut rappeler que pour ma génération, c'est un des premiers coups de poing dans la gueule qu'on s'est pris. Et depuis, on vit dans cette ambiance terroriste. Et c'est pour ça qu'il faut venir, faut qu'il y ait les parents qui emmènent leurs enfants dans 10, 15, 20 ans, qui disent « Tu vois, ici, mon fils, il y a quelqu'un qui est mort pour la liberté ».
Devant l'hypercachère, porte de Vincennes, même cérémonie, très sobre, pas de discours. Les noms des 4 victimes sont à leur tour énoncés. L'habitude n'empêche pas le recueillement. Charlie, un proche de la rédaction du journal satirique, a suivi le cortège. Mais pour lui, ça ne s'arrête pas là.
On va aller sur la tombe de Charles avec la famille, les dessinateurs, où on boit un bon coup et on se remémore plein de choses. Et ensuite, on va sur la tombe de Volinsky et on fait la même. On regrette surtout qu'il ne soit pas là.
Quelques dizaines de minutes après la cérémonie, la circulation a déjà repris. Restent les fleurs au sol devant l'entrée de l'hypercachère.
Le reportage de Justin Morin.
Et mon invité dans quelques instants, Chloé Verlac, la femme de Tignoux, la veuve de Tignoux. Si tu meurs, je te tue. C'est son récit aux éditions. Plus loin, elle sera dans ce studio.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Isabelle Millet et Nathalie Lévy.
À suivre dans cette édition de 18h, y a-t-il eu bavure policière ? L'autopsie de Cédric décédé à Paris après un contrôle routier évoque une asphyxie avec fracture du larynx.
Et puis, plus léger, Diane Chenouda nous dira quels sont les monuments français qui ont été les plus visités l'an dernier.
Votre grand journal du soir, toute l'actu qu'il vous faut, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. Europe 1. 18h10 sur Europe 1, la suite du journal avec Isabelle Millet, Nathalie Lévy.
Il avait 42 ans, il était père de 5 enfants. Dimanche dernier à Paris, Cédric, livreur à scooter, est mort d'une crise cardiaque 2 jours après un contrôle routier qui a dégénéré. Lors de son interpellation, il a été plaqué au sol avant de faire un malaise.
Le parquet de Paris vient d'ouvrir une information judiciaire pour homicide involontaire. Sa famille a porté plainte. Elle dénonce une bavure policière.
Alors que les résultats de l'autopsie qui viennent tout juste de nous parvenir ce soir évoquent une asphyxie avec fracture du larynx. Écoutez le père de la victime qui veut obtenir justice.
On n'est pas dans une cité, c'est pas un dealer, c'est pas quelqu'un de mal foutu, c'est un travailleur. Pourquoi ? Et ça a été un tissu de mensonge jusqu'à 16h, 10h du matin. Il part dans le SAMU à midi et on nous a prévenu à 15h30, voire 16h. Ah ben, votre fils, il a été emmené à... On lui a fait des massages cardiaques. Les collègues ont fait des massages cardiaques. Comme ça, après on a appelé le SAMU et le SAMU l'a emmené. La vérité aujourd'hui, c'est quand on voit les images, on a assassiné mon fils. Je vous le dis, c'est un meurtre. Tant que mon cœur battra, je vous le dis à tous, tant que mon cœur battra, j'irai au combat. Aujourd'hui, j'enterre mon fils. J'enterre un père de famille, de 5 enfants. Vous avez une famille révoltée. J'ai pas de haine contre la police nationale. J'ai la haine contre ces 3 individus. J'ai plus confiance en personne. Plus confiance à la police, plus confiance à personne. J'ai confiance comme mes avocats. Voilà.
Le père de Cédric décédé donc après un contrôle policier. Il était au micro Europe 1 de Marion Dubreuil. Ce soir, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, reconnaît que les résultats de l'autopsie soulèvent des questions légitimes.
C'est l'une des images marquantes des violences qui ont eu lieu en marge du mouvement des Gilets jaunes dans la nuit du 1er au 2 décembre 2018. Le péage de Narbonne Sud était incendié.
Ainsi que les locaux du peloton de gendarmerie qui avaient dû être évacués en urgence. 31 personnes étaient jugées pour ces faits, décrits par la procureure comme des scènes de chaos, de guérilla et d'apocalypse. Le jugement est tombé cet après-midi, Benjamin Peter, avec des peines de prison ferme.
Oui, 21 peines de prison ferme, 9 mois, 15 mois pour la plupart, mais jusqu'à 5 ans pour l'un d'entre eux, à qui l'on reprochait d'avoir volé un engin de chantier pour déposer une voiture en flammes sur le péage. Une scène incroyable qui avait été filmée et dont les images ont été diffusées le premier jour de l'audience. Pour le colonel Marc Gonnet, qui commande le groupement de gendarmerie de l'Aude, ce jugement est équilibré.
On est sur des peines qui restent maîtrisées, équilibrées. Pour nous, la justice est passée. Ça nous permet de nous reconstruire, au sens propre comme au sens figuré. Et nous espérons que ce jugement permettra d'assainir définitivement la situation et d'aller de l'avant.
À l'énoncé des peines les plus lourdes, des prévenus, des gilets jaunes venus les soutenir également protestent. Sofiane écope de 9 mois ferme pour vol et recel et pour lui, ces peines sont disproportionnées.
Je pense qu'on a été jugé pour avoir aussi des exemples pour les gilets jaunes. C'est nous, la trentaine de petites personnes qui vont prendre pour les 200 personnes. Il y a beaucoup de gens qui ont pris 5 ans. Je trouve que c'est vraiment, vraiment sévèrement puni. Surtout pour le profil des gens qu'il y a dans la salle et pour leur casier, la plupart ils sont vierges, donc je comprends pas.
Alors sur les 11 condamnés à de la prison ferme, 2 ont été maintenus en détention, 2 autres ont été placés sous mandat de dépôt et dormiront en prison ce soir. Les autres devraient pouvoir bénéficier d'aménagements de peine.
Benjamin Peter qui a suivi ce procès à Narbonne pour Europe 1 et puis on a appris cet après-midi que la compagne de l'assaillant de Villejuif avait été placée en garde à vue. La jeune femme avait été entendue jusque-là en audition libre.
Gallimard arrête la commercialisation du journal de l'écrivain Gabriel Metzneff. On l'a appris aujourd'hui, qui fait l'objet d'une enquête pour viol sur mineur. Il y était publié depuis 30 ans, Isabelle.
Oui, qui est notamment mise en cause, on le sait, dans le livre de Vanessa Springora, Le consentement, dans lequel elle raconte sa relation sous emprise alors qu'elle avait 14 ans. La justice japonaise s'intéresse aussi désormais à Carole Ghosn, l'épouse de l'ancien patron de Renault.
Oui. Mais oui, elle demande son arrestation immédiate, quelques jours après la fuite rocambolesque de son époux. Un mandat d'arrêt a été lancé.
Oui, vous savez que Carlos Ghosn a prévu de tenir demain une conférence de presse en début d'après-midi. Il s'exprimera pour la toute première fois depuis son arrivée au Liban. Il a promis de tout dire.
13h, heure de Paris, effectivement.
L'Iran lève l'accusation d'espionnage contre la chercheuse franco-iranienne Fariba Abdelkhan. Vous avez parlé d'elle, on était inquiets, elle était en grève de la faim. Elle reste néanmoins poursuivie pour 3 autres motifs. Elle n'est pas encore libérée, mais c'est quand même un signe encourageant.
C'est le palmarès annuel des monuments nationaux les plus visités en France, Isabelle.
Oui, c'est aussi un indicateur de la bonne santé du tourisme. On a le bilan ce soir pour l'année 2019. On précise que la Tour Eiffel, qui est un établissement privé, ne fait pas partie de ce classement. Bonsoir Diane Chenouda.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Alors dites-nous tout, Diane.
Alors d'abord ce chiffre, il y a eu presque 10 millions, plus de 9 970 000 visites exactement, dans les monuments nationaux partout en France l'an dernier. C'est un peu moins un peu moins qu'en 2018, on avait pour la première fois franchi la barre symbolique des 10 millions. Alors pourquoi ce tassement ? L'incendie de Notre-Dame, évidemment, qui a fait perdre 350 000 visiteurs quand même. L'Arc de Triomphe aussi, qui a été fermé pendant 19 jours lors des manifestations des Gilets jaunes. Et puis en cause également, notamment la canicule, qui a fait fuir les visiteurs des remparts de la cité de Carcassonne.
Alors du coup, qui arrive en tête, Diane ?
L'Arc de Triomphe, qui reste quand même le monument le plus visité de France, avec plus d'1 600 000 visiteurs. Juste derrière, on a l'abbaye du Mont-Saint-Michel, toujours très populaire. Sa fréquentation a même augmenté de plus de 6% l'an dernier. Toujours troisième dans le palmarès, la Sainte-Chapelle à Paris, avec une fréquentation en hausse également de plus de 8%, 8,7%, et le Panthéon presque 2% de plus. Enfin, le château d'Angers a attiré près de 13% de curieux supplémentaires l'an dernier. Les Français s'intéressent quand même de plus en plus à leur patrimoine. L'effet Stéphane Bern joue aussi.
Le château d'Angers, je ne connais pas encore. On va y aller.
Moi non plus.
Merci, Diane Chenouda.
Merci. En foot, un mot ?
Oui, si vous voulez. Il y a le premier quart de finale. Voilà, de la Coupe de la Ligue. C'est Reims qui reçoit Strasbourg. Le coup d'envoi, c'est 21h.
Voilà, merci beaucoup, Isabelle Millet. Vous revenez évidemment dans une demi-heure, un quart d'heure même, avec de nouvelles infos, des précisions aussi sur la conférence de presse à Beyrouth, hein, demain, de Carlos Ghosn. Vous nous repréciserez l'heure, parce que je crois que j'ai eu un petit bug d'horaire, mais on va évidemment repréciser tout ça. Anissa, côté du temps, pas de bug, du brouillard.
Non, du brouillard, beaucoup de brouillard au lever du jour. Demain, sur la moitié sud, sur l'Aquitaine, la vallée de la Garonne, le massif central, la vallée du Rhône. Attention, si vous prenez la route demain matin, beaucoup de brumes et de brouillard denses qui se dissiperont au fil de la journée. Demain, c'est assez facile. Si vous n'êtes pas au bord de la Méditerranée, vous aurez des nuages au-dessus de la tête. Au bord de la Méditerranée, c'est du grand et beau soleil. Les températures sont douces l'après-midi, 8 à 18.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir avec dans un instant votre invitée Nathalie Lévy.
Oui, une journée de commémoration aujourd'hui, celle de l'attentat de Charlie Hebdo. C'était il y a 5 ans. Chloé Verlac a perdu son mari Bernard, le dessinateur Tignous. Elle raconte sa nouvelle vie dans un livre, un témoignage fort. Elle est mon invitée dans ce studio dans 2 minutes.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. Il est 18h20 sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy. 5 ans après l'attentat de Charlie Hebdo, vous recevez ce soir, Nathalie, Chloé Verlac, la veuve du dessinateur Tignous, abattue ce 7 janvier 2015. Elle publie « Si tu meurs, je te tue » aux éditions Plomb.
Bonsoir Chloé Verlac.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation ce soir. « Si tu meurs, je te tue », ce récit, effectivement. 7 janvier 2020, 7 janvier 2015. Comment vous avez vécu cette journée-là, aujourd'hui, ce mardi ?
Alors, pour la première fois depuis 5 ans, je n'ai pas subi cette journée. Ces dernières années, moi, je n'ai jamais assisté aux commémorations. J'ai toujours emmené les enfants ou en voyage ou en petit week-end, mais on n'était jamais en France. On avait décidé de faire de cette journée quelque chose de vivant et d'heureux ensemble. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai à raconter la vie qui continue et c'est très agréable.
Là, ça devient très agréable, c'est ça ? Ça devient très agréable ?
Mais oui, parce que je suis pas moi dans la commémoration de quelque chose de triste. J'ai une jolie histoire à raconter, qui est l'histoire d'amour que j'ai eue, qui est celle de la reconstruction, qui je trouve est un message plein d'espoir, puisque en fait on peut continuer à vivre après. En tout cas.
Voilà. C'est ce que vous voulez dire aujourd'hui. Oui. Ce que vous dites dans votre récit, parce que vous repartez du début, c'est évidemment, je ne peux pas ne pas vous interroger sur cette heure fatidique, cette heure de 11h32 où votre vie bascule, votre vie de famille, votre vie de femme, votre vie d'épouse, et ces mots aussi que vous répétez dans cette rue sordide où vous répétez « Je suis la femme du dessinateur Tigno, j'ai 2 enfants en bas âge » et c'est comme si on ne vous entendait pas et c'est comme si on ne vous avait pas entendu encore après pendant plusieurs semaines. C'est vraiment ça que vous avez ressenti ?
C'était terrible. C'était terrible parce que il fallait en plus prendre sur moi, parce que si je pleurais, si je criais, si je m'énervais, si je m'effondrais, on allait me reléguer dans la catégorie des femmes hystériques et ne pas me répondre. Donc il fallait que j'attende, que je demande, et surtout que je donne ma légitimité pour qu'on me laisse passer. Et tout le monde était tellement dépassé par l'ampleur de l'événement que c'est comme s'il n'entendait pas ce que j'étais en train de dire. Donc il a fallu passer les barrages de police, puis ensuite il a fallu accéder au théâtre, et puis personne ne répondait à cette question, et tout le monde me disait « mais on ne sait pas ». Et moi, j'ai revécu cette journée inlassablement parce que je l'ai vécu comme une grande injustice.
Vous racontez bien sûr où vous étiez quelques minutes avant, comment vous la prenez, on vous empêche de conduire votre véhicule pour vous rendre sur les lieux parce que vous n'êtes pas en état de conduire. Et puis, vous apprenez que Tignos est mort sous les balles des frères Kouachi. Vous l'apprenez dans des conditions aussi assez violentes, j'allais dire.
Mais tout était très violent.
Tout était très violent.
Mais oui, parce que j'ai enfin fini par rentrer donc dans le hall du Comédie Bastille qui était devenu la cellule de crise. Et le psychiatre, chef des psychiatres du SAMU, m'a pris par les épaules pour me dire « On ne peut pas vous répondre pour l'instant. » Et il y a une infirmière qui a craqué parce qu'elle n'en pouvait plus, parce qu'elle, elle savait et elle l'a supplié qu'on me réponde. Et donc c'est moi encore qui est verbalisé en disant « Est-ce qu'il est mort ?» Et quand j'ai fait un tour de la salle, j'ai croisé le regard de Luce qui a hoché de la tête.
C'est vous qui avez verbalisé, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est un peu l'impression, quand on lit votre récit, que vous avez dû verbaliser souvent, évidemment, ce jour dramatique, et puis souvent encore après le combat administratif, le combat, j'allais dire, pas politique, mais en tout cas cette parole que vous avez voulu continuer, ce dessin aussi que vous avez continué à faire connaître de Tignos et à diffuser, parce que c'est pas le premier livre hein, que vous signez. Il a fallu verbaliser tout le temps, presque se battre, depuis 5 ans.
Il a fallu... En fait, rien n'était... On nous a fait des promesses qui n'ont pas été tenues.
C'est donc, qui ont
tout le monde, les associations de victimes, l'État...
Vous aviez été reçu à l'Élysée fin janvier.
Oui, oui.
Vous aviez rencontré François Hollande, oui. Vous le racontez d'ailleurs.
Mais en fait, il y a pas de volonté hein, de faire mal, mais tout le monde a été complètement dépassé par l'ampleur de l'événement et on ne rentrait dans aucune case. Et c'était ingérable. Et moi, il fallait que j'avance. Il fallait que je continue. Donc, il fallait surtout que Tignos, l'artiste, il fallait que je parle de lui, il fallait que je le publie. Il fallait que... Voilà. C'était insupportable, tout d'un coup, qu'il soit mort et qu'on n'entende plus parler de lui.
Quelle défaillance y a-t-il eu? Quelles promesses n'ont pas été tenues de la part des associations, du fonds de soutien, du président Hollande? Parce que vous avez été touché une première fois, et puis ensuite, je crois, agacé par son absence, peut-être de
déçu plus qu'agacé. En fait, finalement, j'ai pas eu le temps de m'agacer parce que j'avais vraiment beaucoup d'autres choses à faire. Mais c'est le moment où vous vous rendez compte que votre dossier est traité comme n'importe quel autre dossier, que voilà, quand vous avez un problème avec le formulaire B22 de la CAF, bah là c'était pareil. Alors que on venait
alors
de vivre un drame
épouvantable et exceptionnel.
international.
Comment on se reconstruit? Alors, vous mettez 5 ans là à nous raconter, par le commencement, votre vie à ce moment-là et puis votre vie d'après. Comment vous vous reconstruisez? Parce que il y a le soutien psychologique, il y a le soutien administratif, même s'il est bancal, on le comprend bien. Comment vous faites? Comment vous vivez? Comment vous subvenez à vos besoins, aux besoins de vos enfants? Vous racontez très bien Sarah Lou et Solal, qu'on salue, parce que ces enfants, ils ont su tout de suite.
Mais ils sont incroyables. Moi, il y a trois ans de presque d'absence, en fait. Où, bah, justement, c'est un jour, en tombant sur des tickets de manège, où je me suis dit, mais il est trop grand, il a 8 ans. Et voilà, parce que pendant 3 ans, je ne l'ai pas emmené au manège, parce que pendant 3 ans, il fallait que je passe publier Tignos, il fallait que je fasse des expositions, des conférences, cette bataille-là. Et tout d'un coup, ça a été comme une renaissance, de se dire, mais en fait, voilà, maintenant, est-ce que tu veux vraiment continuer à vivre pour toi, pour eux? Et ça a été une décision. C'est une décision que j'ai prise et qu'après, il fallait assumer. Et le livre, l'écriture de ce livre, c'est l'étape ultime de cette reconstruction, de raconter. Parce qu'avant le drame, il y a de l'amour, que l'amour, ça aide à vivre, que moi, Tignos, je n'avais pas pu lui dire au revoir et que là, j'ai pu le faire.
Je voudrais évidemment vous interroger sur le mois de mai prochain. Parce qu'il y aura le procès des complicités, hein, forcément, dont ont bénéficié les frères Kouachi, et puis Amédi Coulibaly aussi pour l'hypercachère. Vous attendez ou vous redoutez ce moment?
Alors, je ne le redoute pas. Moi, je me suis constituée partie civile parce que je voulais avoir accès au rapport d'autopsie. J'attends pas grand-chose parce qu'on n'a pas grand-chose, et puis ils sont morts. Maintenant, je pense que
vous attendez pas grand-chose?
Non, on n'aura pas.
Vous aurez des réponses, peut-être, quand même. Vous aurez au moins... Enfin, vous avez besoin de comprendre, non?
Mais je pense que les réponses, on les a déjà.
C'est-à-dire, c'est quoi les réponses alors?
Je pense qu'on est on est face à une société dans laquelle la haine, les extrémismes religieux, politiques sont en train de gagner du terrain et qu'en général, historiquement, on sait que c'est symptomatique d'une société qui va mal. Après, comment ils se sont organisés au final, moi, ça va pas me ramener T-News.
Ça veut dire que pour vous, la liberté d'expression aujourd'hui,
alors,
elle
c'est
est
là où j'ai pas fini, et c'est là où je pense que c'est fondamental que la justice d'un pays rende un verdict. À moi, personnellement, oui. À la question, moi, ça ne va pas m'apporter grand-chose, mais j'en attends énormément d'un point de vue national, et je pense que c'est fondamental et nécessaire.
Aujourd'hui, ce deuil national, vous avez le sentiment comme ça que ça vous a aidé à vivre votre deuil personnel, parce qu'on voit bien les réactions encore des gens, l'émotion, on voit bien ce que ça a suscité, Charlie.
C'était très rassurant. Moi, j'ai participé à la manifestation du 11 janvier. J'ai été vraiment heureuse de voir que les gens étaient capables de se fédérer, de se rassembler comme ça. Et les gens m'ont apporté énormément de soutien, d'affection, de tendresse.
Et juste une dernière question, du coup, parce qu'il y a eu évidemment ce slogan « Je suis Charlie », il y a 5 ans. Il est là encore aujourd'hui. Il est vivace, ce slogan ?
Alors,
et tout ce qui va derrière, bien sûr.
Alors, si derrière ce slogan, il y a la défense de la laïcité et de la République, alors oui, il faut qu'il reste vivant.
Il faut, mais vous n'en avez pas, vous en doutez.
Mais tout est une bataille hein, qu'il faut gagner.
Merci beaucoup, Chloé Verlac. Merci d'être venu ce soir sur Europe 1. Si tu meurs, je te tue. C'est aux éditions Plomb. Merci à vous.
Merci.
Europe 1.
À suivre, Nathalie Lévy.
Le rappel des titres et puis le débat des grandes voix, c'est dans une seconde.
Et vous pouvez interpeller les grandes voix au 39-21. Votre grand journal du soir, c'est tous les jours avec Nathalie Lévy, jusqu'à 20h. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Votre rappel des titres, Isabelle Millet.
Et les propositions faites par le gouvernement ne sont pas de nature à faire arrêter la grève. La CGT est sans concession après la reprise des négociations sur la réforme des retraites ce matin. La CFDT, elle, salue la volonté d'ouverture du gouvernement, mais il faut aller encore plus loin, dit Laurent Berger, et retirer l'âge pivot du texte. Le Premier ministre a fixé un nouveau rendez-vous pour vendredi. D'ici là, les syndicats préviennent que la mobilisation va continuer dans les transports, dans les raffineries et dans les rues, avec ces deux journées de mobilisation qui sont prévues jeudi et samedi. Cédric se livreur à scooter décédé dimanche, 48 heures après un contrôle policier musclé. Le parquet de Paris vient d'ouvrir une information judiciaire pour homicide involontaire dans cette affaire. Sa famille a porté plainte alors que l'autopsie évoque ce soir une asphyxie avec fracture du larynx. Des résultats qui soulèvent des questions légitimes, dit ce soir le ministre de l'Intérieur. Les suites de l'affaire Bazeneff, la maison d'édition Gallimard interrompt la commercialisation du journal de l'écrivain qui était en vente depuis 1990. Et puis demain, 14h, conférence de presse de Carlos Ghosn au Liban, alors que le Japon s'intéresse désormais aussi à son épouse, Carole, contre laquelle il a lancé un mandat d'arrêt.
Merci beaucoup Isabelle. L'info revient avec vous à 19h. Anissa, du beau temps dans le sud demain, du coup je le répète.
Oui,
du
beau temps, du beau temps. Effectivement Nathalie, c'est une belle journée hein, demain le long de la Méditerranée, de la Côte d'Azur jusqu'au Pays Basque, sur les Alpes et la Corse. Le ciel est voilé le matin, mais beaucoup plus ensoleillé, lumineux dans l'après-midi. Plus au nord, là, c'est une autre mayonnaise. De la Gironde à la vallée du Rhône, après la dissipation des brouillards, attention, des brouillards épais le matin hein, qui pourront gêner la visibilité, et bien là, le ciel reste très nuageux jusque dans le nord. En Normandie, Bretagne, Hauts-de-France, Alsace, quelques pluies faibles sont attendues dans l'après-midi. Le vent du nord souffle en Corse avec des rafales le matin pouvant atteindre les 70 km/h. Les températures fraîches le matin, moins 2 à 8 degrés, beaucoup plus douces l'après-midi, 8 à 18, 8 pour Strasbourg, 14 à Paris et 17 à Marseille. La suite de votre grand journal du soir est jusqu'à 19h. C'est parti pour le débat des grandes voix, Nathalie Lévy, avec autour de vous ce soir Gérard Carrérou, Michaël Darmon et Judith Vintraub du Figaro.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio. 34e jour du conflit sur les retraites. On tient notre calendrier à jour. Les franciliens surtout, ils sont impactés toujours et encore, et plus précisément les parisiens désormais, puisque c'est surtout le métro hein, parisien que ça coince encore sérieusement. Bon, alors la question du jour, l'âge pivot va-t-il être retiré, oublié, rayé comme ça, ni vu ni connu du projet de loi ? Qui s'y colle ? Gérard Carrérou, allons-y.
Alors, j'ai envie de dire... Non, 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 l'âge pivot n'est pas mort, car il bouge encore. Pourquoi je dis ça ? Parce que ce matin, on avait l'impression qu'il avait pris un sérieux coup
dans les mirettes, comme vous dites.
Mais cet après-midi, j'ai entendu le Premier ministre à l'Assemblée et il ne l'a pas enterré complètement. Alors bon, donc c'est vendredi, Ce n'est que vendredi qu'on saura si effectivement le gouvernement va retirer l'âge pivot.
C'est ça.
Parce que c'est quand même décisif. Parce que,
mais est-ce que vendredi même on saura, même si Laurent Escure de l'UNSA a dit le gouvernement a 3 jours pour apporter une réponse définitive de cette injonction, mais
ils ne peuvent pas se dérober plus après vendredi, plus loin que vendredi. Et Laurent Berger a jusqu'au bout été sur la ligne de fermeté concernant cette
âge pivot. Mais Judith Vintraube, d'ici vendredi, il y a demain. Il y a la journée de mobilisation interprofessionnelle. Et si elle fait un flop, entre guillemets, il n'aura peut-être pas envie, du côté du gouvernement, de donner une réponse définitive vendredi.
Alors, déjà, je ne pense pas qu'elle fasse un flop. On voit quand même qu'il y a la mobilisation se renforce.
Oui, mais il y a quand même,
plus
de transport.
Un peu plus, mais la mobilisation se renforce un peu. Et puis, je vois bien là l'éternel optimisme de Gérard Carrérou qui voit une solution émerger d'ici la fin de la semaine. J'y crois pas du tout.
Ah non, j'ai pas dit ça. Non, pardon. L'âge pivot sera écarté, quand même un des éléments de conflit.
Moi, je l'ai vu vaciller plutôt que pivoter. C'est dans toutes les déclarations des députés de la République en marche, jusqu'à Richard Ferrand, qui quand même a proposé de le mettre de côté, quasiment. Des députés qui disent on ne comprend pas du tout pourquoi Édouard Philippe s'y accroche, c'était pas du tout la promesse d'Emmanuel Macron, au cas où on n'aurait pas remarqué. Hein. Certains députés nous l'ont rappelé en public, donc vraiment ça vacillait. Là, effectivement, il reprend du poil de la bête, mais il faut comprendre les termes du problème, ils n'ont pas changé. Si vous ne voulez pas reculer l'âge de la retraite, ce qui est en fait le but
sur le principe
de l'âge pivot, vous tombez sur quoi ? Sur ce que propose Laurent Berger et dont ne veut pas, et à mon avis à juste titre, le gouvernement, c'est-à-dire augmenter les cotisations et accessoirement piquer réserves de l'Agirc-Arrco, caisse du régime complémentaire du privé, les 71 milliards des avocats, etc.
Sauf que, Michaël Darmon, on peut peut-être scinder. On peut peut-être diviser pour y arriver. On peut faire effectivement cette conférence de financement et puis nommer l'âge pivot autrement pour essayer d'arranger tout le monde
On va sûrement déboucher un petit peu sur la créativité obligatoire dans ce genre de moment, c'est-à-dire effectivement, on va trouver dans cette conférence de financement le moment idoine pour pouvoir créer le grand moment de la conférence sociale qui permettra peut-être à tout le monde de sortir par le haut après une dramaturgie
Et un moment de suspense.
Ça, on verra bien financièrement, bien entendu, mais avec les partenaires sociaux. C'est en cela où ça prend l'allure sociale parce qu'effectivement, c'est l'enjeu. Ce qui me frappe évidemment, pour prolonger ce que vient de dire Judith, c'est l'entrée en scène d'une nouvelle force, c'est-à-dire la majorité. La majorité, les députés, l'aile gauche, exactement gauche sociale de la Macronie, qui se lâche complètement avec quand même des propos extrêmement étonnants. On sait que les relations ont toujours été compliquées entre une partie des députés marcheurs et Édouard Philippe. Il y avait eu une petite accalmie et là
il redonne de la voix.
C'est reparti.
Exactement.
Et avec en sous-texte la qualification politique aussi de ce moment que l'on vit, c'est-à-dire est-ce qu'il faut arrimer beaucoup plus à droite pour les prochaines échéances ou est-ce qu'il faut régler le conflit avec les syndicats et cœur de cela la capacité d'Édouard Philippe à négocier. C'est la nouveauté de cette semaine.
La nouveauté de cette semaine et les autres, on s'en dit quelques mots dans un instant. Restez là, bien sûr, les grandes voix et vous aussi, chers auditeurs.
Vous pouvez également réagir et interpeller les grandes voix. Ça se passe au 39-21, le standard d'Europe 1 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir. C'est jusqu'à 20h. Et la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h autour de vous. Ce soir, Nathalie Lévy, Gérard Carrérou, Michaël Darmon, éditorialiste à Europe 1 et Judith Vintraube qui est grand reporter au Figaro Magazine.
Et Frédéric qui nous appelle du Jura. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir à tous.
Bienvenue à vous. Alors cette réforme, on en parle. Et vous, votre regard ce soir avec cette nouvelle étape, si j'ose dire?
Écoutez, moi au départ, j'étais très favorable à un régime universel des retraites parce que effectivement, 1 euro cotisé pour le même droit pour tous, effectivement, on se demande comment on n'y avait pas pensé plus tôt. Mais avec le temps, on s'aperçoit que la mise en place d'une réforme universelle, suscitent, enfin, demandent de nouveaux besoins financiers, et ça s'avère coûteux. Alors, aujourd'hui, on parle maintenant d'une augmentation de la rémunération des enseignants, décaler l'application de la réforme pour certains régimes spéciaux, les syndicats, eux, demandent la mise en place de nouveaux facteurs de pénibilité, enfin, etc., etc., etc. Et je pense qu'on a de plus en plus l'impression que cela sera au détriment des contribuables, des plus jeunes, et voire le consensus national.
Alors, donc, je me demande, oui, vous vous demandez encore là si on parle bien d'une réforme universelle.
Oui.
Merci Frédéric. Merci Frédéric. On va y revenir avec les grandes voix. C'est vrai que on voit bien qu'il y a des concessions qui ont été faites depuis
bien
Noël,
sûr.
Même
soit,
avant.
Soit des concessions dans le temps qui repoussent jusqu'à 40 ans l'application des régimes spéciaux. Je pense à SNCF, RATP, sous réserve de ce qui va être finalement négocié. Mais enfin, c'est comme ça partait entre l'UNSA et la SNCF. Je rappelle que Jean-Paul Delevoye, artisan de la réforme, avait dit si c'est pour repousser dans 40 ans, autant dire qu'on ne la fait pas, cette réforme. Ça, ce n'est que du temporaire, à très longue échéance, mais que du temporaire. Et puis, il y a aussi des régimes qui vont rester particuliers, à défaut d'être spéciaux. Mais alors, oui. Édouard Philippe dit non, pas du tout, il y a des surcotisations qui expliquent ça, mais en fait, ça revient quand même à ça. Un euro cotisé ne donnera pas les mêmes droits à tout le monde.
Mais là, alors, on arrive quand même à un paradoxe extraordinaire, c'est que l'addition, comme tu viens de le dire, s'allonge, c'est-à-dire que ça va coûter de plus en plus cher, avec toutes les dérogations qu'il va falloir payer, c'est des milliards. J'ai entendu déjà des premières estimations qui parlent de 10, 15 milliards, enfin donc c'est assez proche des 17 milliards consentis aux Gilets jaunes il y a un an. Et le paradoxe, c'est qu'au moment où on voit cette addition donc, s'alourdir, on n'a plus de financement, parce qu'au moins l'âge pivot avait un seul mérite, ça représentait un allongement de donc un financement. Mais si on enlève, effectivement, et c'est le chemin quand même extrêmement difficile, s'ils renoncent à l'âge pivot, il n'y a plus de financement.
C'est ça.
Et il n'y a plus, comme disait Judith tout à l'heure, que baisser les retraites ou augmenter les cotisations.
Augmenter les cotisations, et Laurent Berger est d'accord.
Et d'accord, là-dessus, il est d'accord.
Oui, mais ce qui est très étonnant, c'est qu'au fond, ceux qui réclament un retour à l'origine de la réforme et du projet du candidat Macron devenu président, c'est qu'effectivement il s'agissait d'une réforme uniquement systémique. On ne parlait à aucun moment d'argent, effectivement,
d'une
réforme financière. C'était une réforme politique au nom de l'équité. Une réforme de gauche à l'époque où Emmanuel Macron regardait du côté de la gauche. Ensuite, c'était une réforme qui devait simplifier. On est dans une complexité absolument ubuesque. Et c'était une réforme qui devait marquer et démontrer à quel point la réflexion des macronistes était tellement plus affûtée, tellement plus intelligente que ce qui avait été fait jusqu'à présent, puisque tout n'était question de méthode. Sur tous ces points, on est totalement à l'opposé du résultat, et c'est la raison pour laquelle ce que l'on vit maintenant marquera durablement la fin du quinquennat.
Alors, petit tour de table, parce que là, il y a quand même encore deux dates, le 9 et le 11, jeudi et samedi, avec donc deux journées de mobilisation interprofessionnelle normalement. On voit quand même un petit peu que le soutien des Français est un petit peu en recul, même s'il est au-delà des 50%. On était à 53% dans le sondage Elabe hier. Ça fait moins 4, effectivement, par rapport à il y a 15 jours. On voit bien qu'il y a plus de trains qui circulent, même si pour les Parisiens, ça reste vraiment un casse-tête au quotidien. Qu'est-ce qui peut se passer alors que la CFDT nous annonce qu'elle sera déjà mobilisée en région samedi prochain. Admettons que l'âge pivot soit retiré vendredi. Bon, on peut faire de la prospective un peu.
Mais ça n'empêche pas.
Qu'est-ce qui va se passer ?
Ça n'empêchera pas.
Ça veut dire que les autres syndicats maintiendront.
Et il peut y avoir aussi un autre paradoxe, qui peut-être cette prochaine manifestation sera celle qui rassemblera le plus de monde.
Mais
il
si CFDT possible. Et l'UNSA sont, si la CFDT et l'UNSA sont servies, si j'ose dire, Judith, oui. Micalé, on terminera.
Quand même, au-delà de la CFDT et de l'UNSA,
ce qu'on n'entend plus, pardonnez-moi, mais Philippe Martinez, vous l'avez entendu vous ce matin ?
Oui.
Vous l'avez entendu
aujourd'hui ?
Oui.
Il a dit une chose,
mais on a l'impression que ça se joue quand même à trois entre Philippe.
Mais pardon, il y a l'UNSA et
Judith.
Oui, vas-y Micalé, rappelle ce qu'a dit Martinez.
Philippe Martinez dit une chose qui peut, puisqu'on étudie vraiment les mots précisément dans cette affaire, il a dit qu'il ira effectivement parler de la pénibilité.
Oui. Donc ça
veut dire que c'est un début.
Et oui.
Peut-être d'assentiment là de aussi. La part d'un Philippe Martinez qui sait très bien qu'à un moment donné, il va devoir quand même terminer.
En tout cas,
il ne peut pas penser que cette grève va durer 2 ans.
Exactement.
Donc, de toute façon, il est obligé lui aussi de trouver, d'une certaine manière, le moment où, très rituellement, lorsqu'on termine une grève, du côté de la CGT, on dit la lutte continue. Mais on sait qu'il va falloir, à un moment donné, quand même arrêter.
Avancer.
Donc il faudra trouver une voie. Oui. On est dans le moment où chacun va trouver la bonne porte de sortie.
On n'est pas dans un jeu entre le gouvernement et les syndicats. Entre eux, il y a aussi les Français et l'opinion. Et les Français, ils demandent majoritairement le retrait de l'âge pivot. Donc c'est ça qui peut jouer. Et c'est ça qui peut forcer Philippe Martinez à savoir terminer une grève un de ces jours.
Bon, on verra en tout cas, il l'a dit, Laurent Escure, vendredi, on attend la réponse définitive, on verra. On y croit peu. En tout cas, dans ce studio, vous restez avec nous, les grandes voix. On va évidemment revenir sur cette commémoration. Charlie Hebdo, le drame, c'était il y a 5 ans.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h autour de vous ce soir. Nathalie Lévy, Gérard Carrérou, Mickaël Darmon, éditorialiste à Europe 1 et Judith Vintraube, grand reporter au Figaro Magazine.
Le 7 janvier 2015, la rédaction de Charlie Hebdo, le journal satirique, était décimée par une attaque djihadiste qui a plongé la France dans l'effroi. 5 ans après, on a posé la question à Joachim Roncin, l'initiateur du logo Je suis Charlie. La France est-elle encore Charlie? Écoutons.
L'électrochoc qu'on a eu en 2015, on se l'est tous pris en pleine gueule. Moi, j'ai posté ce message comme une réaction à ce que je vivais personnellement à ce moment-là. Je l'ai exprimé comme ça. Beaucoup de gens se sont retrouvés là-dedans. Ce qui reste, c'est le sens premier de ce que voulait dire ce slogan. C'est un message qui prône la liberté d'expression et la liberté de la presse. Maintenant, qu'est-ce qui reste fondamentalement de la liberté d'expression? C'est peut-être ça la question en creux, la liberté d'expression et d'autant plus mise à mal qu'il y a encore 5 ans. On le voit par les réseaux sociaux. J'ai pas envie d'aller jusqu'à dire que on peut plus rien dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses qu'on dit sont beaucoup plus scrutées. Il faut faire beaucoup plus attention. Le droit à l'irrévérence est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Je trouve ça un peu dommage.
Joachim Roncin, l'initiateur du logo Je suis Charlie, au micro de Théophile Cossa un peu plus tôt. Vous avez évidemment vécu ces événements, vous étiez sans doute dans les rédactions chacun à ce moment-là, le 7 janvier 2015. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste selon vous? Personne n'a oublié, évidemment, mais qu'est-ce qu'il reste de l'esprit Charlie?
Aujourd'hui, moi, j'étais à New York ce jour-là, c'est encore plus frappant quand on vit un événement qui tape au cœur notre société, notre pays, et quand on est à l'étranger, j'ai tout suivi sur les télévisions américaines, et c'était étonnant et formidable, et ça vous prenait aux tripes de voir ces foules et de voir tous ces chefs d'État qui étaient venus du monde. C'était quelque chose d'extraordinaire. J'ai très peur, et je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit là, et ce que disait tout à l'heure à votre antenne aussi,
Chloé Verlac, la veuve de
j'ai très peur que c'est on est régressé depuis, et que ce combat de Charlie pour la liberté absolue, la liberté de tout dire quand il fallait le dire, on ne peut plus le faire tout à fait pareil. Et je crains avec Chloé Verlac que les extrémistes sont en train de gagner du terrain, soient en train de gagner du terrain aujourd'hui dans notre pays. J'en suis malade.
Le droit au blasphème, la laïcité, la liberté d'expression, tout ça.
Rice lui-même parle de nouvelles censures qui ont remplacer.
C'est la une de Charlie Hebdo, on va la montrer.
Absolument.
Nouvelle censure, nouvelle dictature, le dessin de Coco, bien sûr, ce smartphone géant qui affiche les logos des grands réseaux sociaux et qui écrase la langue et les bras d'un dessinateur avec ce titre, donc nouvelle censure, nouvelle dictature.
Oui, on a quand même l'impression depuis 2015, la dénonciation de ouvrez les guillemets, l'islamophobie, fermez les guillemets, devient de plus en plus public, assumé. On se rappelle la manifestation du 10 novembre, les cris à la Wakbar, les étoiles jaunes qui, soi-disant, n'avaient rien à voir avec une étoile juive pour montrer que l'État français lui-même était islamophobe. Les gens qui combattent l'islamisme risquent toujours leur peau. je pense à Zineb El Razoui notamment, qui n'était pas là le jour de l'attentat contre Charlie. Miraculeusement, elle était en vacances, elle y a réchappé. La façon dont Yacine Bellatar, ex monsieur banlieue d'Emmanuel Macron, a salué, lui a souhaité nouvel an en disant Inch'Allah, t'es plus là en 2020 sur Twitter. La façon dont Lajli, réalisateur ô combien en vogue des Misérables, qui a fait découvrir les problèmes de banlieue à Emmanuel Macron, a insulté cette même Zineb El Razoui. Je trouve qu'il y a des tas de signaux inquiétants. Le moins inquiétant n'étant pas cette tendance de certains médias à psychiatriser les attentats,
les assaillants.
Et les assaillants.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Michaël Darmon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la peur a gagné? Ça veut dire que c'est le religieusement correct? Le règne
plus religieusement... que le religieusement correct, c'est le, effectivement ce fameux politiquement correct, et je dirais même le progressistement correct, si je puis dire, parce que tout à l'heure Gérard disait la peur des extrémistes qui progressent, en réalité cette censure vient justement de cette on va dire pensée progressiste installée depuis quelques années, qui est au pouvoir d'ailleurs, et qui parfois a souvent donc produit ces schémas. Mais moi ce qui me marque lorsqu'on réfléchit à ce qui s'est passé donc chez Charlie Hebdo, c'est-à-dire une rédaction essentiellement basée sur les caricatures, fondée sur les caricatures, eh bien, c'est quand même ce qui s'est passé en 2019, quand le New York Times a décidé
lui aussi
qu'il arrêterait
dans ses colonnes
de publier des caricatures de presse suite à un dessin qui a fait polémique, jugé antisémite, sur la politique de Trump et ouais. Netanyahou. Et depuis, on voit bien que c'est un mouvement également planétaire. Beaucoup de journaux ont arrêté la caricature de presse, et ça, c'est effectivement très inquiétant, et il faudra réagir.
Avec en plus une dérive de la gauche en particulier. J'ai cité la manif à laquelle a participé Jean-Luc Mélenchon, la manif contre l'islamophobie.
C'est vrai. Merci les grandes voix. Merci les grandes voix, Judith Vintraud, Michaël Darmon, Gérard Carrérou, merci à vous.
Europe 1.
À suivre, Nathalie Lévy.
C'est le journal de 19h d'Isabelle Millet dans une seconde, avec la réforme des retraites qui fait aussi débat à l'Assemblée. Le point complet, c'est avec elle.
Et vous écoutez votre grand journal du soir, c'est tous les jours jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy sur Europe 1. Jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1, la suite du programme Nathalie Lévy.
Alors 19h10, l'interview politique ce soir, Bruno Retailleau, sénateur de Vendée, président du groupe Les Républicains au Sénat. Demain, un regard vers demain, tous les soirs c'est sur Europe 1, on attend bien sûr la conférence de presse de Carlos Ghosn, et puis ce soir des résolutions, on va vous en dire plus aussi sur ces bonnes résolutions de l'année, par exemple le frugalisme, même dans vos placards. D'abord la météo des neiges,
oui,
petite musique
sûr.
Qui va bien, je l'attendais.
Car il y a encore des auditeurs d'Europe 1 qui sont sur les pistes, Nathalie. Dans les Alpes, à la Clusaz, demain, le temps s'annonce très nuageux. Les prochaines chutes de neige sont prévues pour vendredi et demain, nous aurons jusqu'à 7 degrés quand même sur les pistes. Dans le Jura, au Rousse, peu de neige demain, il n'y a que 15 cm en bas des pistes au Rousse. Très nuageux demain, dans le Massif central à Superbesse, attention, beaucoup de brouillard demain avec de la pluie prévue et la neige, elle arrivera vendredi. Dans les Vosges, à Gérardmer, de la pluie au programme demain sous un ciel très couvert et brumeux. Attention à Gérardmer dans les Vosges, la visibilité sera très réduite demain avec 6 degrés dans l'après-midi. Et dans les Pyrénées, au Grand Tourmalet, à la station de la Mongie par exemple, eh bien nous aurons des éclaircies demain matin, beaucoup de nuages dans l'après-midi, pas de vent et une bonne visibilité sur les pistes dans les Pyrénées.
Merci.
Donc bonne glisse. Votre grand journal du soir, c'est avec Isabelle Millet et Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
J'ai toujours dit que j'étais attaché à l'équilibre, mais que j'étais ouvert à toutes les propositions des organisations syndicales et patronales permettant de revenir à l'équilibre et de garantir l'équilibre futur.
L'exercice d'équilibriste d'Édouard Philippe qui a reçu ce matin les partenaires sociaux avant de répondre cet après-midi aux questions des députés à l'Assemblée. Le Premier ministre a annoncé un nouveau rendez-vous vendredi pour discuter de la conférence de financement proposée par la CFDT, mais les syndicats restent bloqués sur le retrait de l'âge pivot.
Des cheminots ont investi à la mi-journée les locaux de BlackRock. C'est dans le centre de Paris. BlackRock, c'est ce fonds de pension américain qui est au cœur d'une polémique. Certains soupçonnent d'avoir inspiré la réforme des retraites.
Au sommaire également, le coup de gueule de l'adjointe au logement à la mairie de Marseille. Elle démissionne aujourd'hui et surtout elle charge la municipalité qui n'a pas tiré, selon elle, les enseignements du drame de la rue d'Aubagne. Et puis quand des astronautes amateurs donnent un coup de main à la NASA et permettent de découvrir une nouvelle planète assez similaire d'ailleurs à la Terre.
Et la tendance météo, c'est Anissa.
Alors demain, c'est très gris au nord. Le beau temps est réservé à la Méditerranée, des Pyrénées jusqu'à la Côte d'Azur. Vous aurez du soleil. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Isabelle Millet.
Édouard Philippe a donc présidé ce matin une réunion de travail, Isabelle, avec les partenaires sociaux. Mais on ne peut pas dire que le bilan soit parfaitement concluant.
Hein. Non, et pourtant le Premier ministre a repris une idée de Laurent Berger, proposé de recevoir vendredi prochain les partenaires sociaux pour évoquer la fameuse conférence de financement voulue par le leader de la CFDT. C'est donc une main tendue, sauf que Laurent Berger indique que l'abandon de l'âge pivot, est, qui est une ligne rouge pour le gouvernement, que cet abandon est le préalable à toute sortie du conflit. Ça veut dire qu'on n'est pas sorti d'affaire, en tout cas pour l'instant.
Hein. Ouais, cette réforme des retraites qui s'est invitée cet après-midi à l'Assemblée nationale pour les questions au gouvernement.
Et ça a donné lieu à des échanges assez vifs parfois, comme celui-ci entre le président Les Républicains de la Commission des Finances, le député Éric Woerth et Édouard Philippe.
Si on en croit vos déclarations, vous accepteriez l'idée de séparer l'organisation des retraites de leur financement. Si vous renoncez à l'âge pivot, vous renoncerez à la seule mesure de financement. Ce serait alors une déroute pour notre système de retraite. Alors si vous renoncez à l'âge pivot, que seriez-vous prête à accepter ? Une augmentation des cotisations vieillesse, une diminution des pensions de retraite ou les deux ?
J'ai toujours dit, Monsieur le Président, et je ne change pas de discours, que j'étais attaché à l'équilibre, qu'il devait être garanti, mais que j'étais ouvert à toutes les discussions et toutes les propositions des organisations syndicales et patronales permettant de revenir à l'équilibre et de garantir l'équilibre futur. Je continue à tenir ce discours, mais si les organisations syndicales et patronales font une meilleure proposition, plus intelligente, sur laquelle ils s'entendent, alors, Monsieur le Président Woerth, je vous le dis, nous la prendrons à notre compte. C'est aussi ça, faire confiance au dialogue social. C'est faire confiance au dialogue social sur les propositions, mais garantir aux Français que le système futur sera à l'équilibre.
Voilà l'ambiance cet après-midi à l'Assemblée.
Ambiance aussi au Sénat, d'ailleurs.
Oui, le monsieur retraite, Laurent Pietraszewski, était invité ce soir pour un débat sur, justement, sur cette réforme des retraites.
Et pendant les débats, les actions, eh bien, elles continuent.
Il y a toujours des grèves dans les transports et quelques actions ponctuelles dans plusieurs villes, comme à Dieppe, à Toulouse ou encore à Clermont-Ferrand aujourd'hui. Et même une brève intrusion à la mi-journée dans les locaux de BlackRock, c'est cette multinationale américaine spécialisée dans la gestion d'actifs et qui est depuis le début de la contestation sociale l'ennemi numéro un de tous ceux qui s'opposent à la réforme de la retraite, à la retraite par capitalisation. La Légion d'honneur accordée à son président Jean-François Cirelli n'a rien arrangé.
Hein. Action qui aura duré une dizaine de minutes à peine et qui avait avant tout en fait un rôle symbolique, comme l'explique Bérangère Cernon, secrétaire général du syndicat CGT des cheminots de Paris-Gare de Lyon.
On avait décidé aujourd'hui, reprise des négociations, de faire une action symbolique, forte de sens, qui était l'envahissement du siège de BlackRock. On est rentré tranquillement, c'était ouvert, on s'est mis dans le hall, voilà, on a chanté, on a montré notre détermination. Et puis au bout d'une dizaine de minutes, on est ressorti de nous-mêmes. C'est important qu'on parle de BlackRock, d'expliquer ce que représente BlackRock. Pour nous, c'est des requins, c'est les requins de la finance. C'est ceux qui veulent mettre la main masse sur les pensions de retraite. 300 milliards, on a beau dire que c'est une boîte de Smarties, on sait que c'est pas une boîte de Smarties. Ils sont derrière cette réforme des retraites, on sait qu'ils attendent, c'est un lobby financier. Aujourd'hui, ils ont 7000 milliards d'actifs, ils les ont pas fait en un claquement de doigts. Peu connaissent en fait ce qu'est BlackRock. Et j'espère que les gens vont se renseigner et vont se rendre compte de ce qu'ils représentent et du danger que ça représente.
Bérangère Cernon, vous l'aurez bien compris, secrétaire général du syndicat CGT des cheminots de Paris, Gare de Lyon, micro Europe 1 de Jean-Jacques Herry.
Et demain à la SNCF, le trafic sera encore perturbé avec 75% des TGV et 50% des Transiliens en circulation. Et pour la RATP, toujours également très perturbé, mais aucune ligne de métro totalement fermée.
Léger mieux donc. Des peines de prison fermes maintenant pour 21 des 31 gilets jaunes jugés aujourd'hui pour le saccage du péage de Narbonne et des locaux aussi d'un peloton de gendarmerie. C'était Isabelle en marge d'une manifestation de gilets jaunes il y a un an.
Et puis l'actualité, ce sont aussi les résultats de l'autopsie du corps de Cédric, ce livreur mort 48 heures après un contrôle policier. Résultats qui nous sont parvenus cet après-midi. Il a été victime d'une asphyxie avec fracture du larynx à l'origine d'un malaise cardiaque, donc lors de son arrestation. La justice a ouvert une information judiciaire pour homicide involontaire afin de faire la lumière sur cette interpellation. Et ce soir, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, reconnaît que les résultats de l'autopsie soulèvent des questions légitimes auxquelles, dit-il, des réponses devront être apportées en toute transparence.
À Marseille maintenant, l'adjointe au maire chargée du logement jette l'éponge, elle qui avait en charge un dossier particulièrement sensible depuis la catastrophe, vous vous souvenez, de la rue d'Aubagne, c'était il y a un peu plus d'un an.
Oui, l'effondrement de 3 immeubles insalubres qui avaient fait 8 morts. Elle démissionne donc non sans régler ses comptes avec la municipalité, Nathalie Chevance.
Oui, une élue en première ligne depuis le drame de la rue d'Aubagne. Elle était la seule interlocutrice à la mairie pour toutes les victimes et les délogés des centaines de personnes contraintes de déménager pour cause de périls graves et imminents. Aujourd'hui, Arlette Fructus jette l'éponge et accuse sentiment d'abandon. Les services de la ville ne font pas grand-chose pour gérer cette crise du logement insalubre. La charte du relogement récemment votée n'est pas appliquée pour tous les sinistrés. Trop, c'est trop.
Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure, je n'ai pas les moyens
d'apporter des réponses à ces dysfonctionnements. Je ressens de la colère, c'est plus que du gâchis. Je dis que la ville ne s'est pas donné les moyens suffisants pour apporter les bonnes réponses pour l'accompagnement des habitants. Ce qui me préoccupe, c'est que les évacuations continuent. Et je voudrais que cet acte-là permette de réveiller toutes les consciences sur des propositions, parce que le logement et l'habitat doivent être la priorité de l'action municipale à venir.
Alors aujourd'hui, les associations qui œuvrent contre le mal-logement se retrouvent sans interlocuteur à la mairie, et ce à 2 mois des municipales. De quoi ternir un peu plus le bilan du maire sortant.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. Un mandat d'arrêt lancé contre Carole Ghosn par le parquet de Tokyo, soupçonnée d'avoir aidé son mari dans sa fuite vers le Liban. L'ancien patron de Renault qui tiendra demain une conférence de presse à 14h pour la première fois depuis sa fuite du Japon, avec la promesse de n'éluder aucune question. En Iran, une terrible bousculade a fait plus de 50 morts lors de l'enterrement du général Soleimani dans le sud-est du pays, où une foule nombreuse s'était rassemblée sur ses terres natales.
Pas d'amélioration en Australie. On suit la situation de près sur le front des incendies. C'est toujours dramatique.
Oui, les nouvelles ne sont pas bonnes puisque les températures vont regrimper en fin de semaine, accompagnées de vents assez forts, alors que des dizaines de foyers sont toujours hors de contrôle dans l'est du pays. Et preuve, s'il en fallait encore, de l'ampleur du désastre, le nuage de fumée a traversé le Pacifique et il est désormais, paraît-il, visible en Amérique du Sud. Et puis quand la fiction nous rattrape, une nouvelle planète similaire à la Terre existe. Elle vient d'être découverte par la NASA et forcément, ça nous interpelle et ça nous fait rêver.
Eh oui, bonsoir Laure d'Autriche.
Bonsoir.
Merci de nous en dire plus ce soir, parce que évidemment, il faut rester prudent. On ne sait pas ce qu'il y a sur cette planète, mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle a été découverte grâce à l'œil vigilant de plusieurs astronomes amateurs.
Oui, des passionnés d'astronomie qui ont repéré cette planète située dans un autre système solaire que le nôtre. Et parmi eux, il y a en particulier un lycéen américain qui a été d'ailleurs félicité par la NASA.
Oui, pour cause.
Voilà, cet adolescent est un passionné. Il passe des heures à analyser les données transmises par les satellites, celles qui sont accessibles en tout cas sur Internet. Et il a découvert que cet objet n'avait pas été classé comme exoplanète alors que c'en est une. Ce n'est pas la première fois que des amateurs font des découvertes. Ils sont des milliers chaque jour dans le monde à surveiller le ciel, les étoiles, les planètes, les comètes, à parfois même faire le travail des scientifiques dans l'analyse des données lorsqu'ils n'ont pas le temps de le faire. Et leur curiosité, leur érudition permettent aussi de faire avancer la science. Alors dans ce cas précis, cette exoplanète est effectivement d'une taille semblable à la Terre, sans doute, dans une zone habitable, c'est-à-dire ni trop proche ni trop éloignée de son étoile, son soleil à elle, ce qui pourrait permettre d'y trouver de l'eau sous forme liquide. Mais attention, en effet, de là à dire qu'on peut y trouver une forme de vie, on en est extrêmement loin. On découvre assez souvent, il faut le dire, des exoplanètes. On en connaît aujourd'hui 4000 et beaucoup sont considérés comme potentiellement habitables.
Vous suivez ça très près, Laure.
Ah oui, heureusement. Et puis les amateurs également. Hein, heureusement qu'ils sont là. Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Isabelle, merci. Vous revenez à 19h30 avec de nouvelles infos. Anissa, du côté du temps, vous nous dites attention brume et brouillard au programme.
Oui, effectivement, au lever du jour, demain, sur l'Aquitaine, la vallée de la Garonne, le Massif central et la vallée du Rhône, si vous nous écoutez dans ces régions, soyez très prudents demain matin parce qu'on attend beaucoup de brumes et de brouillards épais. Ils seront denses, ces brouillards, accompagnés de nuages bas. Alors, rassurez-vous, ils vont se dissiper au fil des heures, mais vraiment, si vous devez prendre la route demain, la visibilité sera très réduite sur cette moitié sud. Sur la moitié nord, le ciel est couvert demain toute la journée, avec même en Bretagne, en Normandie, sur les Hauts-de-France, l'Alsace, la Bourgogne, les Pays de la Loire, des ondées possibles, pensez à vos parapluies. C'est au sud, finalement, du Midi-Pyrénées à la Côte d'Azur, jusque sur les Alpes et en Corse. C'est là que la journée sera la plus agréable demain. Une journée très ensoleillée et lumineuse. En Corse, attention, demain matin, le vent du nord souffle avec des rafales allant jusqu'à 80 km/h. Les températures, elles sont en légère baisse demain matin, donc il fait frisquer au lever du jour, moins 2 à 11 degrés de Manosque à Brest. Et alors, elles sont bien plus douces l'après-midi, 8 à 18. Nous aurons 8 degrés à Lyon, 10 à Metz, 12 à Clermont-Ferrand, 14 degrés pour Paris et jusqu'à 18 degrés à Nice.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, c'est avec vous Nathalie Lévy.
Et le rendez-vous politique du grand journal du soir, c'est avec vous Aurélie Herbemont. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
À votre micro ce soir.
Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, il nous dira s'il croit ou pas à la conférence de financement des retraites.
L'interview politique d'Aurélie Herbemont, c'est dans un instant dans votre grand journal du soir jusqu'à 20h.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Nathalie Lévy, tout de suite place à l'interview politique.
Et avec vous, Aurélie Herbemont, ce soir, votre invité, Bruno Retailleau, sénateur de Vendée, président du groupe Les Républicains au Sénat.
Bonsoir Bruno Retailleau.
Bonsoir et bonne année Aurélie Herbemont. Et à vos auditeurs aussi d'Europe.
Et aux auditeurs, merci Bruno Retailleau. Le gouvernement accepte de travailler sur l'idée de la CFDT, une conférence de financement des retraites. Est-ce que c'est une bonne piste selon vous?
Non, c'est une mauvaise piste.
Ah.
Parce que, et je vais l'expliquer très concrètement pour vos auditeurs, qui sont les Français, qui sont soit retraités aujourd'hui, qui seront retraités demain. Le système à points, ça peut être le meilleur ou le pire. Parce que la valeur du point influera sur le niveau des pensions. Et la seule façon de maintenir de façon élevée la valeur du point, c'est d'avoir un régime équilibré. Or, si vous faites une réforme systémique, vous décidez le point maintenant, et vous remettez à demain les mesures paramétriques qui vont faire l'équilibre du système, eh bien, vous faites l'inverse de ce que tous les pays européens qui ont adopté une réforme systémique par points, par exemple le Danemark, par exemple l'Allemagne, par exemple l'Italie, tous ont fait d'abord le paramétrique, on se remet d'équerre, on se remet à flot, et ensuite on passe au systémique. Parce que la valeur du point, et en plus la valeur du point c'est un chèque en bois, parce que c'est en 2037 qu'on saura vraiment la valeur du point. Donc si vous dissociez la réforme systémique, vous décidez du point aujourd'hui, en disant demain, on verra bien comment on va bricoler
le financement. Le Premier ministre quand même rappelle que l'équilibre financier du régime est un objectif. Il ne dit pas, on oublie totalement l'aspect financier, attention.
Mais c'est un objectif peut-être, mais comment il le réalise? Aujourd'hui, on sait par exemple, au moment où je vous parle, le Fonds de solidarité vieillesse, c'est près de 4 milliards. Et c'est en plus le gouvernement qui l'a déséquilibré, parce que quand on fait la désocialisation des heures supplémentaires, le gouvernement a oublié de compenser ce cadeau fiscal. Bien. Mais aujourd'hui, le corps nous dit, le Conseil d'orientation des retraites nous dit, voilà, ça sera entre 7-8 milliards à 2025, jusqu'à 17 milliards d'euros de déficit à 2025. Et après, tous les ans, 8 milliards chaque année de déficit. Eh bien, une réforme avec le point au bout. Si vous n'avez pas un équilibre financier, c'est une catastrophe. Vous appauvrissez les retraités de demain.
Donc, ce que vous dites ce soir au gouvernement, c'est surtout tenez bon sur l'âge pivot.
Et bien sûr, et on le dit depuis le départ. Moi, je pense que pour ce qui concerne ma famille politique, il y a un objectif, c'est maintenir et garantir le pouvoir d'achat de nos aînés, de nos retraités.
Le gouvernement ne dit pas non plus qu'il veut baisser les pensions.
Ouais, mais sauf qu'il y a plusieurs façons. Soit on augmente les cotisations. Les entreprises françaises sont les plus fiscalisées de toute l'Europe.
Ça n'est pas une option.
La seule option qui reste, c'est des mesures d'âge. Je rappelle que quand François Mitterrand arrive au pouvoir en 81, il descend de 65 ans l'âge légal de départ à 60 ans. À ce moment-là, il y a une espérance de vie de 74 ans. L'espérance de vie aujourd'hui, elle est entre 82 et 83 ans.
Voilà. Alors justement, chez LR, vous suggérez, votre proposition, c'est de décaler l'âge légal de départ en retraite, qui est aujourd'hui à 62 ans et qui passerait pour vous à 64-65 ans au fur et à mesure du vieillissement de la population.
Absolument.
Mais alors, en quoi ça serait plus acceptable pour les syndicats qui, déjà, l'âge pivot, ne veulent pas en entendre parler? En quoi votre solution serait meilleure pour le dialogue social?
Mon problème, ça n'est pas la CFDT. Ce que je veux dire, c'est qu'il arrive à la CFDT de se tromper. La CFDT a été pour la retraite à 60 ans.
Vous dites que Laurent Berger se trompe.
La CFDT a été pour les 35 heures, qui ont été une des mesures qui ont mis en l'air l'hôpital, qui ont affaibli la compétitivité et l'emploi en France. Je pense que le dialogue social, c'est important, mais ce n'est pas parce que la CFDT pense aujourd'hui qu'il ne faut surtout pas de mesures d'âge que c'est une bonne position.
Donc, chercher un compromis avec les syndicats réformistes.
Mais alors, comment sortir de la crise, 34 jours de grève, Bruno Retailleau? Pourquoi est-ce qu'on a un problème aujourd'hui? Bien sûr qu'il y a M. Martinez qui adore prendre avec ses amis en otage l'économie française. Mais pour autant, ce n'est pas parce que la réforme est bonne. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est Emmanuel Macron qui nous a mis dans le pétrin. Pourquoi il nous a mis dans le pétrin? Par deux raisons, par deux engagements, deux promesses qu'il a fait pendant qu'il était en campagne électorale au moment des présidentielles. Il a dit, je ne toucherai pas aux 62 ans. Et là, on nous refourgue l'âge pivot. Ah, les Français ne comprennent pas, et les syndicats non plus, et je les comprends. Deuxième chose, il a dit, je garantirai le pouvoir d'achat des retraités. Je me souviens, c'était face à un débat à votre serviteur, le 6 avril, sur France Télévisions, en 2017. Et là, qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé au pouvoir? Il appauvrit les retraités, puisqu'il a désindexé. Et aujourd'hui encore, les retraités qui touchent plus de 2000 euros par mois sont désindexés. Donc si j'ose dire, il est le gouvernement et Emmanuel Macron, ils sont co-responsables avec un certain nombre de syndicats qui sont extrémistes du bazar en France. Et maintenant, c'est à eux de nous dire comment ils comptent nous tirer d'affaire. Et ce que je vois bien, c'est que cette réforme, elle est totalement déchiquetée. Elle n'a plus rien d'universel.
Déchiquetée.
Elle est déchiquetée. Qu'est-ce qui reste de la réforme, de l'universalité de la réforme? On voit bien qu'au fil du temps,
il y a
on
des spécificités. Le gouvernement a fait des concessions à effectivement voilà, les policiers, les danseurs de l'opéra. Il y a quelques autres
secteurs. Les stewards, les pilotes de ligne, les employés des énergies, du gaz, etc. Les routiers, etc., etc. Et donc les régimes spéciaux vont se multiplier. Qu'est-ce qui se passe? En plus, il y a une très grave injustice. Une injustice pour les veuves, une injustice pour les femmes, une injustice aussi pour le privé et pour les jeunes. Parce qu'en réalité, vous êtes roulant à la SNCF aujourd'hui, vous avez un compte épargne-temps de 3 ou 4 ans, ça ne s'appliquera pas à vous avant 2050, alors que pour les salariés du privé, ça s'appliquera plus de 10 ou 15 ans avant cette date-là. Donc on voit bien que c'est le privé qui va payer pour le public. Donc c'est ça la réalité de la réforme
de
Monsieur Macron.
Et vous ne voyez pas vraiment la sortie de crise. En attendant, on est donc, je le disais, à 34 jours de grève. Vous vous maintenez qu'il faut revoir le service minimum. On va devoir être très bref, Bruno Retailleau.
Oui, je le maintiens. Je le maintiens. On ne peut plus aujourd'hui, parce qu'il y a un enjeu pour des Français qui sont les plus modestes, qui dépendent des transports publics. Je suggère qu'aux heures de pointe, le matin et le soir, donc on ait un tiers des services de transport public qui fonctionnent. Et je suggère aussi qu'on ait un remboursement, non pas un avaloir, un remboursement automatique
total
de la RATP, de la SNCF,
des billets, pour les auditeurs qui, par exemple, ont eu un pass Navigo, 75,20 €, vous réclamez qu'il soit remboursé intégralement
exactement,
pour le mois de décembre.
Sans aucune démarche. C'est ma proposition, c'est le texte que nous discuterons bientôt au Sénat. Je pense qu'il faut moderniser le droit de grève. Oui, au droit de grève, mais le droit
qui
de grève...
Qui est constitutionnel.
Qui est constitutionnel, mais la continuité des services publics est aussi constitutionnelle. On trouve un bon équilibre. L'équilibre que je propose, c'est un tiers le matin des transports publics et un tiers le soir.
Eh bien, merci beaucoup Bruno Retailleau d'avoir été mon invité.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
Restez avec nous à 19h30, on passe en mode bonne résolution, c'est le début d'année. Si on devenait frugaliste, pas seulement dans l'assiette, mais dans tous les registres de nos vies. Et puis à 19h45, du cinéma avec Mathieu Charrier.
Et vous pouvez bien sûr participer à cette émission et venir débattre. 39-21, c'est le standard d'Europe 1. On lit également tous vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Nathalie Lévy, votre grand journal du soir jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 et Europe 1 qui a toujours un temps d'avance. On regarde Nathalie Lévy demain, vers demain.
Vers demain, en France, dans le monde et dans nos vies. On est complet chaque soir. Bonsoir Théophile Cossa.
Bonsoir Nathalie.
Direction Orléans tout d'abord où doit être lancée demain la 31e édition de l'opération Piège Jaune.
Oui Nathalie, et ça se passera au centre hospitalier régional d'Orléans en présence de deux personnalités incontournables. Brigitte Macron, la toute nouvelle présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris et Hôpitaux de France, fonction occupée par Bernadette Chirac pendant 25 ans, et Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, qui sera cette année 2020 le parrain de l'opération. Alors pour rappel, les Pièges Jaunes, ce sont chaque année 6 semaines de mobilisation pour recueillir des dons en faveur des enfants hospitalisés. Objectif, améliorer leurs conditions d'accueil et de vie à l'hôpital. Cette année encore, plus de 2,3 millions de tirelires seront mis à disposition dans tous les bureaux de poste de France.
Et évidemment, ces dons, ils sont plus que jamais indispensables.
Absolument, Nathalie, car ils permettent la réalisation de projets très concret, comme dans ce centre hospitalier régional d'Orléans, qui n'a pas été choisi au hasard. Il a bénéficié d'une importante subvention pour la construction de la maison des familles de l'hôpital. Une aide précieuse, comme me le confiait le directeur du CHR d'Orléans, Olivier Boyer.
C'est une opération qui a été élaborée grâce à des généreux donateurs, dont la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, qui est le plus gros donateur, qui nous a donné une belle somme pour réaliser cet investissement important, qui permet aux parents d'être présents sur le site de l'hôpital, parce qu'il y a des enfants qui sont hospitalisés, qui sont originaires d'assez loin, et ça permet aux parents d'être logés sur place et d'être à proximité des enfants qui sont hospitalisés, notamment en réanimation néonatale, pour des séjours un peu longs. Donc c'est évidemment quelque chose de très précieux.
Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, l'opération Piège Jaune permet de récolter chaque année, avec ses petites tirelires, plus de 2 millions d'euros. Pour les remplir, il ne vous reste plus qu'à vous rendre dès demain dans votre bureau de poste. Vous avez jusqu'au 15 février.
Ah oui, l'opération Piège Jaune qui sera donc portée pour la toute première fois par Brigitte Macron dans les pas de Bernadette Chirac. On suivra ça de près. Merci beaucoup Théophile Cossa. Demain dans le monde, c'est également chaque soir. On vous conduit en coulisses, direction Beyrouth avec Mathieu Bock. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
parce que demain se tient la conférence de presse de Carlos Ghosn qui a fui le Japon de façon rocambolesque la semaine dernière, on l'a raconté, une conférence de presse là aussi minutieusement préparée, hein.
Oui, elle va débuter à 14h précise, histoire de pouvoir capter les télévisions américaines, européennes et japonaises en même temps. Il va d'ailleurs parler en anglais, peut-être quelques mots en français, mais ce n'est pas certain à l'heure qu'il est. Configuration assez classique, Carlos Ghosn sera sur une petite estrade, face à lui, assis sur des chaises, une centaine de journalistes venus du monde entier, triés sur le volet, choisis par l'ancien patron de Renault en personne, mais aussi par Anne Méo, sa redoutable chargée de communication à Paris. Et la séance se déroulera en deux temps, un propos préliminaires et ensuite une séance de questions-réponses.
Et sur le fond alors, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, que peut-on espérer de cette conférence de presse ?
Et bien surtout que Carlos Ghosn se justifie sur son évasion. Évidemment, les questions vont fuser sur ces conditions de fuite rocambolesques du Japon, mais il est peu probable que l'ancien patron de Renault s'éternise sur cet aspect-là des choses. Non, il va probablement se défendre sur le fond de ce que la justice lui reproche. Avec ses trois avocats présents dans la salle, il a prévu de projeter des documents devant les caméras du monde entier afin de prouver son innocence et de dénoncer, je cite, un complot de la part de Nissan. Une conférence de presse qui sera donc à mi-chemin entre un cours magistral d'innocence et une plaidoirie de la défense.
Merci beaucoup Mathieu Bock pour Europe 1 et pour être complet sur ce sujet. Un mandat d'arrêt a été lancé contre Carole Ghosn par le parquet de Tokyo aujourd'hui, soupçonné d'avoir aidé son mari dans sa fuite vers le Liban. Demain dans nos vies, bonsoir Thierry Dagiral, bienvenue dans ce studio. Meilleurs vœux à vous. Alors direction Séoul ce soir, comme ça, où des caméras vont détecter les crimes avant qu'ils ne soient commis.
Exactement, et ça grâce à l'intelligence artificielle. Alors comment ça marche. Un logiciel va traiter l'emplacement, l'heure, le comportement, ce que le passant porte, les objets qu'il a avec lui. Est-ce qu'il a l'air soucieux? Est-ce qu'il suit quelqu'un?
Oh là là, mais c'est Minority Report là, ou
vraiment.
Presque.
Et pour cela, ils vont rentrer 20 000 contenus, 20 000 types de crimes ou délits dans la mémoire du logiciel. Ces caméras seront donc capables de déduire la probabilité qu'un crime ait lieu. Si le taux dépasse un certain seuil, les caméras alerteront le poste de police voisin. Des caméras qui compareront si ce qui est filmé correspond à des modèles de criminalité antérieure.
Ah bah dis donc, c'est déjà demain alors.
Eh oui, ce sera d'ici le mois de juillet prochain, dans la capitale de Corée du Sud. Donc 3000 caméras de ce type qui seront installées.
Comment faut-il l'accueillir? On s'interroge, hein, on peut continuer d'en parler. Merci beaucoup.
Exactement.
Thierry Dagiral, merci à vous. Le rappel des titres, c'est dans quelques instants, juste après 19h30. On va parler des bonnes résolutions. Être plus écolo, moins consommé, lâcher les écrans. Allez comme ça, le frugalisme en bonne place pour cette rentrée? On en parle.
Vous êtes frugaliste? C'est votre résolution de l'année? Bien, venez nous en parler au 3921 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit tous les jours jusqu'à 20h. Il est 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Isabelle Millet pour le rappel des titres.
Il faut d'abord que l'âge pivot soit enlevé du projet de loi sur les retraites pour espérer une sortie du conflit. C'est ce qu'a dit ce matin Laurent Berger de la CFDT. À l'issue de la réunion des partenaires sociaux avec Édouard Philippe, le Premier ministre a proposé une nouvelle rencontre à Matignon vendredi pour déterminer le contenu de la conférence de financement proposée justement par la CFDT. 21 condamnations pour le saccage du péage de Narbonne en marge du mouvement des Gilets jaunes, 21 peines de prison ferme. L'autopsie du livreur mort à Paris après un contrôle routier musclé, asphyxie avec fracture du larynx. Sa famille dénonce une bavure policière. Le ministre de l'Intérieur reconnaît que ces résultats d'autopsie soulèvent des questions légitimes auxquelles des réponses devront être apportées, dit-il, en toute transparence. Emmanuel Macron demande au président iranien la libération sans délai des deux chercheurs retenus en Iran, parmi eux la franco-iranienne Fariba Adelka, contre laquelle l'accusation d'espionnage a justement été levée aujourd'hui. Après 8 mois de paralysie politique, l'Espagne a un nouveau gouvernement, le socialiste Pedro Sanchez est reconduit au poste de Premier ministre, mais il devra gouverner avec le parti de gauche radical Podemos. La République démocratique du Congo traverse une terrible épidémie de rougeole, la pire au monde selon l'OMS, qui demande 40 millions de dollars supplémentaires pour y faire face. Plus de 6000 personnes mortes en un an. Et puis le foot, premier quart de finale de la Coupe de la Ligue ce soir, Reims reçoit Strasbourg.
Merci beaucoup Isabelle et à demain.
À demain
pour de nouvelles infos. Anissa, du côté du ciel, une belle journée au sud demain.
Oui, effectivement, Nathalie, une très belle journée demain le long de la Méditerranée, de la Côte d'Azur jusqu'au Pays Basque, hein, même jusque sur les Alpes et la Corse. Demain, le ciel sera voilé le matin, mais beaucoup plus ensoleillé et lumineux l'après-midi. N'oubliez pas vos lunettes de soleil. Plus au nord, c'est le parapluie qu'il va falloir garder près de vous. De la Gironde à la vallée du Rhône, après la dissipation des brouillards épais du début de journée, là, le ciel est très nuageux, avec en Normandie, Bretagne, Hauts-de-France, Alsace, Des pluies faibles qui sont prévues surtout dans l'après-midi. Le vent du nord souffle en Corse, prudence, avec des rafales le matin jusqu'à 70 km/h, ce qui pourra vous donner une sensation beaucoup plus fraîche au lever du jour. Les températures, justement, elles sont fraîches le matin, douces l'après-midi, moins 2 à 8 degrés demain matin. Nous aurons 8 à 18 en moyenne dans la journée, 8 pour Strasbourg et Belfort, 14 à Paris et jusqu'à 17 degrés à Marseille, 18 à Nice.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1 et on va s'intéresser à une tendance. Nathalie Lévy avec votre invité, le frugalisme.
D'ailleurs, est-ce une tendance de fond ou une simple tendance passagère? On en parle effectivement avec vous, Véronique Varlin. Bonsoir.
Bienvenue. Bonsoir.
Vous êtes directrice associée de l'Observatoire Société et Conso L'Obsoco. Et puis Sébastien Boller qui est avec nous au téléphone, docteur en neurosciences, auteur du Bug humain aux éditions Robert Laffont. Est-ce que vous nous entendez? Bonsoir à vous. Il arrive dans quelques instants, Sébastien Boller. Effectivement, est-ce que vous avez pris de bonnes résolutions, vous qui nous écoutez? Est-ce que vous allez être moins écolo, plus écolo, moins consommateur, lâcher un peu les écrans? Le retour à la frugalité, c'est comme ça que cela se nomme. Qu'est-ce qu'on en dit, Véronique Varlin, aujourd'hui? Est-ce que c'est un changement en profondeur ou une simple tendance?
Alors, c'est vrai que dans toutes les études qu'on mène, nous, ce qu'on observe, c'est que la part des frugaux décroissants, elle est plutôt minoritaire, en fait. Hein. Pour nous, par contre...
Les frugaux, vous les appelez?
Ou les frugalistes.
Okay.
Disons que, bon, on les appellerait plutôt les décroissants, en fait. Hein, ouais. Et c'est vrai que c'est... Bah, je vais peut-être un peu vous décevoir. C'est pas forcément la tendance du moment, ou en tout cas
forte,
celle
quoi,
qu'on relève surtout. Nous, ce qu'on relève surtout, et là, très très récemment, c'est une attention vraiment beaucoup plus forte des consommateurs à l'égard des questions environnementales, de l'écologie. Et au fond, ça amène une sorte de virage tournant culturel dans la consommation, dans le sens à la fois d'une critique du modèle de consommation passé, une protestation, et en faveur d'un nouveau modèle de consommation responsable.
Responsable, voilà. Et aussi un circuit non marchand, l'économie circulaire, il y a aussi tout ça, ça.
Disons que dans la consommation responsable, il y a énormément de choses, en fait, dont ce que vous avez pu citer, en fait. Hein, c'est vrai qu'il y a aussi une défiance à l'égard des acteurs traditionnels de l'offre, en fait, hein, des acteurs industriels notamment, la grande distribution, mais il y a aussi un besoin d'aller vers des canaux plus courts, plus peut-être maîtrisables, plus contrôlables. On connaît le producteur, on va s'orienter vers le local, mais il y a aussi une nouvelle manière de consommer en rejetant en fait l'obsolescence programmée, en allant...
Et puis plus de deuxième main quand même, ou
absolument,
pas
absolument,
oui, quand même,
ça,
parce que moi je lisais,
aussi, c'est une tendance forte.
Voilà, je lisais quand même chaque jour près de 800 000 annonces mises en ligne sur Le Bon Coin.
Ouais.
C'est quand même énorme. Je lisais aussi qu'on a des explosions, 19% d'augmentation entre 2014 et 2017, de vide-greniers, de revendeurs, de brocanteurs qui se bousculent clairement au portillon.
Ça, en effet, c'est une tendance vraiment forte, dans la mesure où nous, ce qu'on mesure, en fait, c'est qu'il y a 6 Français sur 10 hein, qui achètent à peu près presque 5, un peu moins, qui revendent en fait, d'occasion, mais c'est vraiment rentré dans les pratiques de consommation courantes. Et ça concerne tout un tas de types de produits, en fait, hein, aussi bien l'habillement. Voilà.
Alors, le docteur Sébastien Boller est en ligne avec nous. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes docteur en neurosciences, donc je le rappelle, auteur du Bug humain aux éditions Robert Laffont. Je posais la question à Véronique Varlin, qui est avec moi dans ce studio, sur la frugalité, changement en profondeur ou simple tendance. Je vais plus loin avec vous. Est-ce qu'elle est naturelle, cette frugalité, ou inscrite dans nos gènes?
Oui, bonsoir. Non, c'est le problème. C'est que nos comportements, qui sont quand même en grande partie dictés par la façon dont notre cerveau fonctionne, ils sont gouvernés quand même par des mécanismes profonds qui nous viennent de très très loin dans l'évolution de l'humanité, de plusieurs millions d'années. Et les principes de ces mécanismes dans nos neurones, dans nos cellules nerveuses de notre cerveau, c'est quand même des principes de croissance, d'accumulation, de conquête. Et c'est pas pour rien que l'espèce humaine, Homo sapiens, était une espèce conquérante qui a vraiment recouvert la planète. C'est dû à cette partie de notre cerveau qu'on appelle le striatum. C'est un ensemble de neurones de la taille d'une grosse prune qu'on observe aussi chez les primates, qui a traversé les âges. Et qui nous donne du plaisir, de la satisfaction, avec une molécule qu'on appelle la dopamine, hein, que certains connaissent quand même, une molécule du plaisir, quand on se reproduit, quand on mange, quand on acquiert du pouvoir, et aujourd'hui on acquiert du statut social, enfin en tout cas depuis un siècle dans notre société de consommation, bien souvent en montrant qu'on est capable d'acquérir des biens de consommation puis des biens matériels. Et donc à chaque fois qu'on a été comme ça conditionné à avoir du statut et du bien-être en achetant, en accumulant, il y a cette décharge de dopamine. Et le problème, c'est que ce système, au bout d'un moment, s'il a toujours la même dose, il se lasse, c'est ce qu'on appelle l'habituation hédonique.
Très bien.
Oui, oui. Et donc ça, le seul moyen de reproduire toujours plus de dopamine, c'est d'augmenter les doses. Donc c'est d'accord. De renouveler le stock de ce qu'on a. Voilà.
Ah oui.
Alors, donc ça, c'est le mécanisme de base.
D'accord. Alors on va y revenir dans le détail avec vous. Restez en ligne avec nous, Sébastien Boller, Véronique Varlin également à mes côtés. On se reparle de tout ça et vous nous expliquez dans quelques secondes.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h.
Europe 1.
Et dans votre grand journal du soir sur Europe 1, avec vos invités Nathalie Lévy, ce soir on s'intéresse au frugalisme. Vous pouvez bien sûr réagir, n'hésitez pas sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et au 3921 direct, c'est le standard d'Europe 1.
Et vous l'avez compris avec le docteur Sébastien Boller, hein, la frugalité c'est clairement pas une inclinaison naturelle, hein, pas une tendance première pour nous l'être humain. On va juste joindre Jean-Yves, enfin plutôt répondre à Jean-Yves. Bonsoir Jean-Yves, vous nous appelez de Beaune, bienvenue.
Bonsoir Nathalie et bonsoir à tous. Oui, alors la frugalité ou le frugalisme, j'ai entendu parler d'un mouvement venant des États-Unis et qui, en fait, ne veut pas appeler décroissance la décroissance, quoi, parce que on va avoir des soucis d'approvisionnement en matières premières, en eau, dans les années qui viennent, et on va avoir des soucis de production agricole, une population mondiale qui augmente. Donc, de toute façon, on n'a pas tellement le choix. Il va falloir aller vers de la décroissance. Alors, on a des tas de modes qui arrivent autour du bio, du local, du frugalisme, etc., qui, pour moi, sont toutes plus incohérentes les unes que les autres. Le bio, par exemple, il y a 60 ans, il n'y avait aucun produit chimique dans les cultures françaises et il n'y avait aucun produit bio, parce que bio, c'est une certification commerciale. Et ça, on ne le dit jamais aux gens. Ça coûte, pour faire du bio, un viticulteur, on est dans une région viticole ici à Beaune, pour faire du bio, un viticulteur doit payer, en fait, pour dire qu'il travaille bien.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Yves depuis Beaune. On va continuer à interagir avec vous et puis avec Véronique Varlin aussi. En fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, Jean-Yves, si on va jusqu'au bout de sa pensée, beaucoup d'hypocrisie aussi dans ces nouvelles façons de consommer ou d'essayer de moins consommer. Alors certes, la planète est en difficulté, mais il y a quand même beaucoup d'hypocrisie.
Plus que de l'hypocrisie, je dirais qu'il y a de la tension, en fait. Une tension, un conflit, en fait. Hein, entre, d'un côté, un plaisir, c'est vrai. Et ça, on le voit dans nos études aussi. C'est que la consommation, ça reste de toute façon quelque chose d'important dans la vie, associé à des valeurs de bien-être. Mais en même temps, ça pose problème, notre rapport à la consommation. Parce que ce que vient de dire ce monsieur, les consommateurs l'ont en tête, en fait. Ils voient bien que notre façon de consommer doit changer. Donc toute la question, c'est en effet d'y arriver et d'enclencher quand même des changements qui restent, c'est vrai, très en retrait et sur lesquels on attend les acteurs de l'offre, on attend les marques, on attend qu'elles nous amènent des solutions. Ouais.
Le problème, docteur, si vous êtes toujours en ligne avec nous, Sébastien Boller, je pense que oui. Finalement, quand on nous dit comme ça, parce que c'est le dossier de l'Obs hein, qu'on a trouvé effectivement très intéressant, finalement, il faut faire le vide. Il faut faire le vide dans nos assiettes, il faut faire le vide dans nos placards, il faut faire le vide dans nos vies, aussi avec les réseaux sociaux, etc. C'est quand même une injonction de plus.
Oui, c'est une injonction qui est particulièrement difficile parce que elle suppose d'aller contre soi-même. C'est tout le défi de l'Occident aujourd'hui. C'est assez paradoxal de voir quand même que ce sont les sociétés les plus riches et qui sont les plus émettrices de gaz à effet de serre, par exemple, qui aujourd'hui parlent de frugalisme. C'est un peu un luxe, c'est-à-dire que de l'autre côté, on a quand même des milliards d'individus qui, eux, sont dans des situations plus difficiles et qui cherchent au contraire à avoir de la croissance. Mais il s'agit d'aller contre les mécanismes de notre propre cerveau.
Alors comment on fait ? Est-ce qu'on a des clés ? Est-ce qu'aujourd'hui, Sébastien Boller, on peut avoir des éléments pour faire le vide ou au moins faire le tri ?
Oui, il faut savoir d'abord que ce mécanisme de dopamine, c'est quelque chose qu'on porte en nous et qui donc agit de façon un petit peu comme un petit diablotin qui nous pousse sans qu'on le sache forcément et parfois on s'en rend absolument pas compte. Voilà, c'est le grand mois des soldes, on va se jeter sur sa carte bleue, on va filer vers les magasins. Puis quand on commence à savoir comment fonctionne le cerveau, on peut se dire « Ah, finalement, je sais que je suis poussé par ces petits neurones à dopamine ». Déjà, ça introduit une prise de conscience. Ensuite, il faut bien savoir qu'on ne peut pas fonctionner sans cette dopamine et sans... sans cette envie, sans cette envie de plaisir. Quand on frustre totalement ce mécanisme, c'est encore pire parce qu'on finit par craquer.
C'est décuplé.
Oui. Donc il faut y trouver les moyens astucieux, intelligents et durables de s'injecter en gros cette dopamine dont on ne peut pas se passer. Alors, il y a plusieurs façons de le faire.
D'un mot.
Alors la frugalité, la bonne frugalité, c'est une façon de le faire. Les spécialistes, vous savez, de la pleine conscience et ces techniques qui consistent à ralentir, à augmenter notre présence à ce qu'on fait quand on mange, à prendre plus de temps, à détailler les saveurs, montrent qu'effectivement, on peut obtenir plus de dopamine avec moins de stimulation.
D'accord.
En mangeant, par exemple, moins, mais plus lentement, ou en goûtant plus les instants entre amis, ou en se satisfaisant un peu plus longtemps de la berline qu'on a achetée il y a quelques mois. Donc, la conscience, qui est produite par une autre partie de notre cerveau, qui s'appelle le cortex, peut décupler la sensation de plaisir et la dopamine sans forcément augmenter la dose de matérialité et de consommation.
D'accord.
Mais ça, ça se fait par un effort personnel.
Oui, c'est ça.
Par une discipline.
Et puis, pas en un claquement de doigts, j'allais dire. Merci beaucoup, en tout cas, Sébastien Boller, docteur en neurosciences, auteur du Bug humain aux éditions Robert Laffont, d'avoir répondu à mes questions. Véronique Varlin, deux questions. Il y a quand même une question de génération. On sent la génération dite Greta, qui est hyper sensibilisée à la surconsommation. Ce sera peut-être plus facile pour cette génération-là d'aller vers le frugalisme au fur et à mesure, même si ça va prendre encore du temps.
Nous, on ne la voit pas encore beaucoup. Au contraire, c'est même très étonnant, en fait. Hein.
Donc, ça veut dire que la parole est en contradiction avec l'action.
Les jeunes sont les plus, on va dire, accros, quelque part, à la consommation, en fait. Hein, et peut-être, justement, les moins...
C'est paradoxal.
Alors, c'est très paradoxal, en effet. Et c'est plutôt les plus âgés qui sont à la fois les plus sensibilisés et puis, on va dire, les plus engagés aussi, hein, dans des comportements concrets. Par contre, c'est vrai que pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, peut-être que nous, ce qu'on observe, en fait, c'est cette tendance à aller vers du moins, parce que moins, c'est mieux, en fait. Hein. Donc, c'est vrai que c'est une autre manière aussi hein, de consommer.
Moins, c'est mieux, sauf qu'il y a plus et c'est pire sur les réseaux sociaux. Et là, comment on fait ? Parce que c'est une forme de consommation aussi, c'est consommer du virtuel et peut-être se distinguer du réel, de notre environnement réel, de nos proches, etc. En tout cas, s'éloigner d'eux au profit donc du virtuel. Ça, c'est...
Alors, nous, on va plutôt parler, pardon, peut-être, c'est pas le sujet, mais d'immatériel, d'usage, en fait. Et ça peut être une solution. C'est-à-dire, en effet, de basculer du produit, de l'achat, de l'accumulation d'objets à, en fait, plutôt les usages qu'on peut en retirer. Et ben, ça suppose des nouveaux modèles économiques et les consommateurs sont prêts à ça. En fait.
Les consommateurs sont prêts à ça.
Évidemment, ça va faire du chemin, ça va prendre du temps, mais ils sont déjà prêts à ça pour un certain type de catégorie de produits. Et voilà, ça peut être que l'avenir va aller dans ce sens-là.
Bon, il y a de l'espoir. Merci beaucoup, Véronique Varlin, directrice associée de l'Observatoire Société et Consommation, l'Obsoco. Merci d'être venue.
Europe 1. À suivre jusqu'à 20h, Nathalie Lévy.
Bah, c'est mardi, donc c'est ciné.
Ah,
le retour de Mathieu Charrier, il arrive.
À tout de suite, restez avec nous sur Europe 1, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy. C'est tous les jours jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 et tous les jours on parle culture juste avant 20h dans un instant. On va parler cinéma avec les choix de Mathieu Charrier, mais avant cela c'est la playlist avec votre coup de cœur musical Nathalie Lévy.
On le dit ensemble, c'est Marc Lavoine, on adore
Ma Papou.
Je pouvais pas le dire toute seule, Ma Papou, c'est improbable quand même.
On est pas
Chantaline, bijou, Osée, Joséphine, j'ai un succès fou. Initials, Bibi, Jen, Bibi. À rendez-vous, ma papou. Osée, Joséphine, j'ai un succès fou. Initials, Bibi, Jen, Bibi, Bambou. Maladie, héroïne, au paradis. À rendez-vous, ma papou.
Marc Lavoine, ça s'appelle Marc
Ma Papou.
Voilà, ce titre extrait du dernier album, Je reviens à toi, Marc Lavoine en concert ce soir au théâtre de Béthune, une date qu'il avait dû annuler en novembre dernier en raison des tournages de la saison 9 de The Voice. Il est l'un des nouveaux coachs, premier prime samedi 18 janvier sur TF1, vous savez tout.
Voilà la playlist du 18-20, retrouvez demain à la même heure avec un nouveau titre. C'est mardi, c'est ciné, vous le savez, tous les mardis soirs on fait le point sur les films à ne pas manquer en salle dès demain avec notre spécialiste Mathieu Charrier.
Mathieu Charrier, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Alors bienvenue à vous, votre coup de cœur de la semaine, c'est le film L'Adieu, récompensé dans la nuit de dimanche à lundi au Golden Globes, bien sûr à Los Angeles.
Oui, la récompense va pour la meilleure actrice à Awkwafina, que vous ne connaissez pas mais qui est une jeune fille formidable. Alors ce film, c'est l'histoire de la réalisatrice Lulu Wang, d'origine chinoise, elle a grandi aux États-Unis. États-Unis lorsque ses parents lui apprennent que sa grand-mère, qui elle est restée au pays, est atteinte d'une grave maladie et qu'elle n'a plus que 3 mois à vivre. Mais comme le veut la tradition chinoise, il décide à cette grand-mère de lui cacher la vérité, c'est-à-dire de lui cacher le fait qu'elle est malade, mais quand même de réunir une dernière fois toute la famille en prenant comme prétexte le mariage du frère. Oui, oui. À partir de là, le film déroule sa partition sur le poids des traditions, sur le mensonge dans les familles, sur la place qu'occupent les grands-parents, sur les racines. C'est un film qui est évidemment très émouvant, mais aussi très positif, très lumineux, contrairement à ce que l'on pourrait penser quand je vous donne comme ça le petit pitch. Et puis, il y a une super surprise à la fin que je ne vais évidemment pas vous dévoiler. Donc voilà, il faut aller le voir, laissez-vous surprendre.
Il faut aller le voir, c'est le petit phénomène qui effectivement a fait de l'effet.
En route pour les Oscars.
Voilà. Autre film qui vous a touché, c'est Sol, signé Isabelle Marquez.
Dans lequel Chantal Lobby joue Sol, c'est une célèbre danseuse de tango argentin. Elle vit à Buenos Aires, elle a rompu tout lien avec son fils Raphaël, mais elle apprend qu'il vient de mourir. Et elle décide alors de revenir à Paris rencontrer son petit-fils qu'elle ne connaît pas, donc il s'appelle Joe, il a 7 ans. La maman de Joe, elle est incarnée par Camille Chamou. Alors Chantal Lobby va louer un petit studio sur le même palier qu'eux, chercher à nouer des liens sans leur dire qui elle est vraiment. C'est un film qui est très doux, véritablement. On a l'impression parfois, vous savez, qu'il est un petit temps en dessous du rythme des films que l'on connaît. Et surtout, quel plaisir de revoir Chantal Lobby dans un premier rôle.
Moi, j'arrive chez ma belle-fille, elle ne sait pas que je suis sa belle-mère. Donc déjà, il va y avoir l'approche de ces deux femmes, une qui est méfiante, l'autre qui fait tout pour être acceptée et aimée par et la belle-fille et le petit-fils. Et c'est pas gagné d'avance, sachant le côté psychorigide qu'a la belle-fille. Voilà, donc c'est tout ça. Le film est basé un peu là-dessus.
Et le tango.
Ah ben le tango, voilà.
Ce que vous en faisiez avant, pas du tout.
Non, j'ai fait du tango avec mon père, un pas, deux pas de côté. Voilà, c'est tout, mais vraiment basique. Et puis quand Isabelle m'a dit, mais attention, le tango argentin, c'est pas tout à fait la même chose, tu vas voir. Je suis allée dans des cours. Il se peut qu'un de ces jours, vous me voyez partir au tango.
Voilà, Chantal Lobby au tango. Ça s'appelle donc Sol, c'est une belle surprise de ce début d'année. Je vous signale aussi la sortie d'un vrai bonhomme qui est plus à destination là, des adolescents. On va suivre Tom, c'est un ado timide qui peut compter sur le conseil de son frère, il s'appelle Léo, c'est tout l'opposé, mais duquel il va petit à petit devoir s'émanciper parce que son omniprésence évidemment devient toxique. Là aussi, il y a une surprise à la fin. Et je trouve que pour les ados, c'est un bon film, ça s'appelle Un vrai bonhomme.
Et je reviens juste à Chantal Lobby, on se souvient d'elle dans La Cité de la Peur, dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, etc. Là, c'est changement radical.
Changement,
de registre,
et surtout, c'est la
bien,
première fois qu'elle a un vrai premier rôle. Ouais, seule, parce qu'effectivement, à chaque fois, elle partageait ses premiers rôles.
Premier rôle, exactement. Dans un tout autre style, comme ça, Underwater, un survival movie.
Oui, vous savez, c'est ces films qui n'ont aucun autre intérêt que de savoir si les protagonistes vont s'en sortir ou non, qui va mourir, qui va s'en sortir. Moi, j'aime bien ce genre de film quand c'est bien fait. Donc, dans celui-là, il y a notamment Kristen Stewart et notre Frenchie Vincent Cancel. C'est un film en anglais. Ils vivent à plusieurs centaines de milliers de mètres sous l'eau dans une sorte de station scientifique. Un jour, évidemment, elle se retrouve toute secouée, cette station, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout est cassé. Tremblement de terre, monstre sous-marin. Vous le découvrirez, mais c'est parti pour 1h35 sous l'eau, véritablement. Faut pas être claustro, hein. On est avec eux dans un univers, il faut bien le dire en plus, que l'on connaît pas vraiment et qui nous effraie. Écoutez Vincent Cassel.
On est dans un endroit où en fait l'homme n'a pas encore été. Donc ça permet de fantasmer, d'ailleurs, en fantasme. La vérité, c'est qu'on ne connaît pas la faune marine à cette profondeur-là. Et à chaque fois qu'ils tombent sur un nouveau truc, ils disent « mais putain, on l'avait jamais vu celui-ci ». Je vais beaucoup à Tahiti dernièrement. Il y a des mecs qui pêchent avec des moulinets électriques, donc ils ont le poids qui descend à 300 mètres. Ok. Et tout d'un coup, ils remontent. Et les poissons qui remontent n'ont pas du tout la même gueule que d'habitude. Et surtout, ils explosent en fait en remontant. Ils ont les yeux exorbités et tout, à cause de la pression. Donc voilà, c'est vraiment un autre univers quoi, en dessous. Et donc, sachant cela, on peut tout imaginer.
Ouais, en fait, c'est Gravity dans l'eau, quoi. Oui, c'est vrai.
En quelque sorte, c'est vrai.
Plongée angoissante et abyssale.
Ouais, et il faut quand même préciser qu'Anissa était complètement sous le charme de la voix de Vincent Cassel.
Ah, bah, bien pas, sûr, pas, si pas, avec, pas, la voix. Avec la voix.
Bon, voilà, vous pouvez plonger. Underwater, c'est réalisé par William Eubank. Et puis pour terminer, je vous dis un mot des siffleurs qu'on avait découvert au dernier Festival de Cannes. C'est un bon thriller qui est basé sur le silbo. C'est une langue sifflée ancestrale qui permet à un inspecteur corrompu dans le film, inspecteur corrompu de la police de Bucarest, d'échanger avec des trafiquants de drogue sans être démasqué. Là encore, si vous aimez les thrillers, franchement, faut y aller. Ça s'appelle donc Les Siffleurs et c'est signé du roumain Cornelou Pourumbouillou. Bon. Vous avez le programme.
Eh ben, dites donc. On a le top 3 quand même.
Bah, le top 3.
Lequel il faut aller voir en priorité.
Vous le faites, hein, l'adieu.
Non.
Si, dans si. L'ordre.
Dans l'adieu, ça. Ah, t'es vraiment dans l'ordre.
Ça, mais toujours, ouais, Nathalie.
Toujours dans l'ordre. Bon, bah voilà, on connaît parfaitement les choix de Mathieu Charrier, les goûts de Mathieu Charrier. Merci beaucoup, à mardi prochain,
mais
sans faute.
Avec plaisir.
Bon, parfait. Émilie Mazoyer, lâchez votre téléphone portable. Frugalisme, c'est aussi dépluguer les réseaux sociaux, c'est aussi s'éloigner.
Je ne peux pas, parce que les auditeurs de musique.
musique. Ils sont là, ils m'envoient des idées parce que ce soir on fait une petite battle entre les Doors et les Beatles, donc autant vous dire que ça fait rage.
Ah bah oui.
Voilà. Et alors on va accueillir une jeune chanteuse, autrice, compositrice. Elle s'appelle Pomme. Vous allez beaucoup entendre parler d'elle en 2020. Elle a notamment 3 concerts à Paris à la Cigale qui sont déjà complets. C'est elle qui va faire la première partie de Céline Dion au Vieille Charrue. Voilà, ça va être incroyable. Son deuxième album s'appelle Les Failles.
Je ne vais pas sortir, je ne vais pas me découvrir des failles, des failles.
Voilà Pomme qui sera notre invitée ce soir dans Musique.
Camélia Jordana un peu dans la voix, non?
Ah, il y a quelque chose. Oui, le petit voile dans la voix.
On va écouter ça. Ça.
Bon, et ben on vous laisse, mesdames, avec Pomme. Autour de Pomme. Merci Émilie Mazoyer. On vous écoute attentivement avec vos invités. Et nous, on se donne rendez-vous ici même demain soir, 18h-20h sur Europe 1, n'est-ce pas, Anissa?
Pour écouter Le Monde Changé.
Belle soirée à tous.
À demain, c'était Nathalie Lévy.